Nous allons donc ouvrir la séance et je vais commencer par procéder à l'appel nominal des conseillers. Enzi Jean. Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile. Barouin Dolores. Biaise Michel. Absent. Baumler Laurent.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présente.
Kérol Evelyne.
Présente.
Dumont Laurence.
Présente.
Clos Marie. Absente.
Pouvoir
à Laurence Dumont.
Oui.
Coulet Dominique. Absente, pouvoir à Christophe Lamy.
A priori.
Cournil Jean-Jacques.
Oui,
vas-y, Dolores.
J'ai le pouvoir.
D'accord. Excusez-moi. Pouvoir à Dolores Barouin. Fago Edwige. Absente, pouvoir à Odile Arnoux. Flory Patrick. Absent. D'accord. Fourdrin Stéphanie, absente, pouvoir à René Brouillard. Galzinski Nicolas.
Présent.
Présent. Grosbon Lisiane.
Absente, normalement, je peux bien pouvoir, monsieur Florine.
Bon, pour l'instant, absente.
Patrick Flory, non adepte des mails.
D'accord.
Il arrive.
Ok. Donc je rectifierai ça tout à l'heure. Hein. L'ami Christophe.
Oui.
Le Mercier Jean-Claude. Absent. Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe.
Présent.
Raguido Cécile.
Présent.
Raoui Ferrugia.
Présente.
Sauvage Patrick. Absent. Stéphane Patrick.
Présent.
Présent. Il y a donc en ce moment 17 présents. Dont 10 absents, le Mercier Jean-Claude, présent, donc 18 présents, 9 absents pour l'instant. Le quorum est atteint, donc la réunion sera valide. Secrétaire de séance, Laurent Baumler se présente comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Laurent Baumler, secrétaire de séance à l'unanimité. Nous avons donc reçu pour l'instant 5 pouvoirs. Coulet Dominique à Christophe Lamy, Cournil Jean-Jacques à Dolores Barouin, Fago Edwige à Odile Arnoux et Fourdrin Stéphanie à René Brouillard. L'ordre du jour, donc après l'élection du secrétaire de séance qui vient d'avoir lieu, nous aurons l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 10 novembre 2016, lecture de la décision du maire numéro 8-2016, décision, la lecture des décisions droit de préemption urbain, et ensuite nous passerons à l'élection des conseillers communautaires, la programmation 2017 pour demander les subventions au conseil départemental, fixation du tarif de location du logement de l'école du centre qui est actuellement en cours de réfection, le tarif des caveaux au cimetière, les modifications au tableau des effectifs, le régime indemnitaire de la filière de police municipale qui sera revu, la rémunération des agents recenseurs du recensement de la population, le plan d'accessibilité, enfin le lancement du plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics, la désaffectation d'un local de l'école maternelle, le transfert de propriété à la commune de l'impasse du Clos des Moines, la convention avec le conseil départemental pour la vidéoprotection, enquête publique, avis sur les activités exercées par la société Cornec, avis sur le plan local d'urbanisme de Rivecourt, et ensuite le point 14 qui était une information obligatoire, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement eau usée en 2015. On n'a peut-être pas toutes les réponses aux questions.
Déjà que le rapport comporte quelques incohérences et malheureusement, quand on est parlé de congé, il n'y a pas toujours l'intéressé dans ce temps de présentation.
Donc, comme on a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, on reportera cette présentation au mois de janvier. Et ensuite, les questions diverses. Donc, nous avons eu deux questions diverses de monsieur Lamy. Donc, arrivé à 20h10.
19h10,
pardon, toutes mes excuses. À 19h10 de monsieur Patrick Floury, qui est porteur d'un pouvoir de madame Lisiane Grosbon. Donc nous sommes maintenant, si je ne me trompe pas, 19, avec 8 absents, dont 6 pouvoirs.
Oui.
Très bien. Bon, ben, écoutez, je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour. C'est l'approbation du procès verbal des délibérations du conseil du dernier conseil municipal. Y a-t-il des observations, des remarques, des commentaires? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès verbal du dernier conseil municipal du 10 novembre 2016 est approuvé à l'unanimité. Lecture de la décision du maire numéro 8-2016. Donc, monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, décide de signer ce jour l'avenant numéro 1, lot 1 VRD, d'aménagement sécuritaire rue de la République relatif au mobilier urbain avec l'entreprise Eurovia Picardie, centre de travaux Compiègne, boulevard Henri Barbusse, Tour Haute, pour un montant de 19 120 euros hors taxe, soit 22 944 euros toutes taxes comprises, passées selon la procédure adaptée. Voilà, question. Bon, comme vous avez pu le voir, le mobilier urbain est maintenant posé rue de la République. Il reste un totem à poser pour lequel nous attendons d'ailleurs le devis. Et puis la signalisation verticale qui normalement doit être mise en place demain.
Une question s'il vous plaît. Suite à la visite des commerçants, est-ce qu'il y a eu des réajustements?
Alors suite à la visite des commerçants, nous avons effectivement échangé avec les commerçants. Nous avons, c'est un peu ce qui avait été dit ici hein, d'ailleurs lors de la visite. Comme vous avez pu le voir, il y a un morceau qui est entre Monsieur Cruz, donc le boucher, et la fleuriste, sur laquelle nous n'avons pas mis de mobilier urbain. sachant que les autres commerçants étaient favorables à ce qui est du mobilier urbain devant leur pas de porte. Donc je crois qu'aujourd'hui, la mise en place du mobilier urbain, elle s'est faite dans le consensus le plus le plus total. Aujourd'hui, j'ai donc on va examiner cette solution-là, mais on est dans les adaptations. Hein. Il y a au contraire Monsieur Cruz, alors j'en ai pas encore parlé, qui commence à me réclamer quelque part une barrière devant chez lui pour qu'on puisse mettre les vélos, alors que au départ, lorsque les commerçants étaient venus, ils en voulaient pas. Donc voilà, ça, on est dans les ajustements minimes, mais tout se passe de manière consensuelle. Droit de préemption urbain.
Merci.
À partir du 38. Oula. Tout ça? Oula. Bon. Alors, nous n'avons pas exercé de droit de préemption. Donc, il y a eu des demandes de la part de monsieur, madame Cislac, 2 rue des Marronniers, de monsieur et madame, de monsieur Larvor et madame Ferré, 3 rue Saint-Pierre, de madame Le Faucheur Virginie, 25 rue Claude Carlier, de monsieur Oliveira Dany, 12 ruelle du Point du Jour, de monsieur Modeste Bâton, 10 ruelle du Point du Jour, de monsieur madame Meyaoui Noureddine, 12 rue Marguerite Yourcenar, des consorts Gourdet, 49 rue Saint-Nicolas, des consorts Pinjot-Fressé, 48 rue Saint-Pierre, des consorts Page, 3 rue de la Mabonnerie, de monsieur et madame Mouden, 1 rue Marguerite Yourcenar, de monsieur et madame de Grugillier, 10 avenue René Firmin, de madame Bernard Emmanuel, 5 rue Jean d'Ours, de monsieur Dessin Christophe, 11 rue de Paris, de madame Mba La Mélana, 20 avenue René Firmin. J'ai eu un peu de difficulté, toutes mes excuses. Madame Allaire Christelle, 9 rue de la Pêcherie. Investis France, 13 rue Marguerite Yourcenar. Madame Loiseau Martine, 5 rue Saint-Nicolas. Les consorts Boulogne, 69 avenue René Firmin. Monsieur et Madame Duchemin Robert, 12 avenue René Firmin. Monsieur et Madame Chikroun Abdelaziz, 27 rue Saint-Pierre. Monsieur et Madame Boulot Pierre, 11 bis rue Jean d'Ours. Madame Allaire Christelle, 2 rue de Saint-Yne. Monsieur et Madame Tahir Abdelaïde, 7 impasse des Hirondelles. Consort Zissiak, 8 rue de la Pêcherie. La SCI Domino, route de Saint-Sauveur. Madame Lacaille Emmanuel, 5 rue de Paris. Et monsieur Stéphane Patrick, 4 rue Pasteur. Donc tout ça fait que pour l'année, nous avons eu 64 DIA, donc demande pour nous demandant si on exerçait notre droit de préemption ou pas. L'an dernier, nous en avions eu 75 pour information. Élection des conseillers communautaires. Donc, au préalable, d'ailleurs, il y avait une question diverse qui avait été posée par Monsieur Lamy. Je vais faire une présentation aussi claire que possible de justement la fusion ARC-CCBA qui rentre maintenant dans la dernière ligne droite pour l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Autonne. Simplement, pour commencer, je rappelle que tout ça avait débuté vers le mois d'octobre 2015 par la présentation des projets de schéma départemental de coopération intercommunale qui avait reçu des avis des communes. Le processus s'est poursuivi ensuite au travers de différents accords. Nous en avons voté un certain nombre ici. Et aujourd'hui, il se termine avec un arrêté de périmètre et un arrêté de gouvernance pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. On peut peut-être d'ailleurs distribuer les... C'est en cours. Juste, toujours en introduction, pour redonner les éléments. Donc l'agglomération de la région de Compiègne avait été créée en 1999, la communauté de communes de la Basse-Automne en 1998, 16 communes dans l'agglomération de la région de Compiègne, 6 dans la communauté de communes de la Basse-Automne, une population de 74 300 personnes dans l'agglomération de la région de Compiègne pour une population de 11 009 personnes dans la communauté de communes de la Basse-Automne. Une superficie en hectares de 21 809 hectares pour l'agglomération de la région de Compiègne et de 5 551 hectares pour la communauté de communes de la Basse-Automne. On voit donc un rapport en gros de 1 à 7 en termes de population, un rapport de 1 à 4 environ en termes de superficie. Derrière ça, dans la situation financière des deux EPCI, typiquement le budget de la Basse-Automne tourne autour de 1 million d'euros. Le budget de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne tourne autour de 29 millions d'euros. Il y a donc un rapport de 1 à 29. Une capacité de désendettement d'un côté, donc du côté de la région de Compiègne qui est de 5,6 aujourd'hui, et pour la communauté de communes de la Basse-Automne, une capacité de désendettement qui est supérieure à 30. Voilà pour ce premier point. Deuxième point ensuite, qui touche plus aux aspects compétences. On vient de vous distribuer donc l'arrêté de périmètre qui est donc remonte au 28 novembre 2016. Si vous ne l'avez pas eu avant, c'est parce qu'il est arrivé en fait aujourd'hui. Donc dans cet arrêté, vous l'avez tous, vous l'avez parcouru déjà. Je vais simplement rappeler au moins un certain nombre de points. Donc cet arrêté de périmètre de la nouvelle communauté d'agglomération, agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne, entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il indique qu'à compter du 1er janvier est créée une communauté d'agglomération dénommée agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne, issue de la fusion des deux intercommunalités. Les communes, les 22 communes sont donc Armancourt, Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Bienville, Choisy-Aubac, Clairoy, Compiègne, Janville, Jaux, Jonquière, Lachelle, La Croix-Saint-Ouen, Le Meux, Marny-les-Compiègne, Néry, Saint-Ine, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur, Saint-Va-de-Lomont, Venette, Verberie et Vieux-Moulin. Il est indiqué dans l'article 2 que le siège de la communauté d'agglomération sera fixé à Compiègne. L'article 4, alors l'article 3 dit que la communauté d'agglomération exerce de plein droit les compétences reprises dans un tableau qui est joint, qui est en fait la somme des compétences des deux organismes. Toutefois, dans l'article 4, il est indiqué que ces compétences pourront être modifiées par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération issue de la fusion, dans les limites imposées par la loi, qui dispose notamment que le futur conseil communautaire disposera, à compter du 1er janvier 2017, d'un an pour restituer aux communes membres, éventuellement, une ou des d'ailleurs, une compétence optionnelle, et de 2 ans pour les compétences facultatives. Donc c'est clairement ce qui va se passer. On y reviendra tout à l'heure pour un certain nombre de compétences qui seront rendues aux qui seront très probablement rendues aux communes. Bon, l'article 5 nous dit qu'il y aura un conseil d'agglomération. Bon, après, les articles 6, 7, 8, 9, bon, ce sont des articles, je dirais, administratifs. L'article 10, lui, indique... L'article 10 indique que l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne disposera des budgets annexes suivants. Service assainissement, service eau, RPA, donc je suppose que c'est résidence des personnes âgées, aménagement de zones, déchets ménagers, transports intercommunaux, SPANC, donc service public d'assainissement non collectif, aérodrome, accueil des gens du voyage, hôtel des projets, tourisme et zone d'activité du Champ d'Olan. Dans l'article 11, alors ça c'est un article qui n'est pas anodin, qui change, puisque de par la loi, de toute façon, c'est pas un choix, la nouvelle communauté d'agglomération sera soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique, ce qui n'était pas le cas de la Basse-Automne jusqu'à présent, puisque nous étions en fiscalité additionnelle. Très bien, je passe sur cet article-là. Article 14, donc là il touche plus à l'urbanisme. À compter du 1er janvier 2017, il sera constaté le retrait de la communauté de communes de la Basse-Automne du périmètre du schéma de cohérence territoriale porté par le syndicat mixte de la Basse-Automne et de la Plaine d'Étrée. La communauté de communes de la Plaine d'Étrée demeurant le seul membre du dit syndicat, il sera constaté la dissolution de plein droit du syndicat mixte de la Basse-Automne et de la Plaine d'Étrée, etc., etc. Voilà. En tout cas, ce qui est cette sortie du périmètre et la dissolution du SMBAP est quelque chose qui a des conséquences très claires, puisque pour le schéma de cohérence territoriale, eh bien nous n'en avons plus. En fait, à compter du 1er janvier, nous sommes donc en zone blanche et de ce fait en zone de constructibilité limitée. Bien, vous avez ensuite les tableaux. Qui donne les compétences. Je vais peut-être pas lire l'ensemble de ce qui est marqué, mais au moins les têtes de chapitre. Alors, les compétences obligatoires de la nouvelle intercommunalité. Développement économique. Donc, dans le développement économique, il y a notamment quelque chose de très concret pour nous, puisque les zones d'activité économique sont reprises par la nouvelle intercommunalité, par la nouvelle agglomération, et de ce fait, la communauté, la zone d'activité économique qui regroupe Poquelin plus un certain nombre d'endroits, bien va passer sous la coupe de l'agglomération. Ensuite, il y a l'aménagement de l'espace communautaire. Donc sous ce, là, ça mérite d'être détaillé, puisqu'on voit que c'est tout ce qui touche à l'urbanisme. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale. Donc là, c'est dire que la compétence urbanisme passe à l'agglomération de la région de Compiègne. Et même si les maires des différentes communes continuent naturellement à donner leur avis, c'est l'agglomération qui décide. Pour les permis de construire, pour toutes les demandes d'urbanisme. Et pour l'établissement du plan local d'urbanisme, là, nous sommes quand même dans une situation un peu particulière, où aujourd'hui, on ne sait pas très bien de quoi sera fait notre avenir, du fait de la disparition du, puisqu'on n'est plus sous le SCOT. La loi, quelque part, entre la loi NOTRe et toutes les lois d'urbanisme, il y a un vide, on peut dire ça comme ça, juridique. Et donc, le législateur s'emploie aujourd'hui à la combler, mais il reste une zone d'incertitude pour savoir si nous continuerons sur notre plan local d'urbanisme, ou du moins, de toute façon, ce sera un plan local d'urbanisme qui devra être approuvé par l'agglomération, ou si la nouvelle agglomération relancera un plan local d'urbanisme intercommunal plus global, comptant les 22 communes. Voilà où j'en suis pour ma part aujourd'hui. Oui.
Le plan local d'urbanisme intercommunal de l'Arche, il n'est pas encore fini.
Exact.
Et on ne peut pas, on ne pouvait plus y rentrer.
Non.
Donc aujourd'hui, il faudra d'abord qu'ils finissent leur plan local d'urbanisme intercommunal. Après, qu'ils fassent un POT pour 2018. Et puis, après, refaire un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, qui nous mène quand même dans les années 8 ans.
Alors,
pour avoir un PLUI, bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que la ligne blanche nous donne une unité gagnée quand même, puisque, flou, comme vous disiez, il y a un peu de limite.
Voilà, alors on peut quand même continuer à avoir des projets, mais il va falloir passer quelque part par des procédures dérogatoires, dont l'une d'entre elles, c'est la déclaration de projet. Si, mais ça, ça vaut évidemment pour des gros projets, pas pour la construction d'une maison individuelle. Il faut être clair. Hein. Maintenant, pour moi, au jour d'aujourd'hui, le plan local d'urbanisme, qui est valide sur Verberie, continue à être valide. Voilà. Donc, ça touche les projets nouveaux, en fait. Maintenant, est-ce que l'agglomération... alors, c'est une petite incertitude que j'ai par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que l'agglomération décide de ne pas finir son plan local d'urbanisme intercommunal et d'en reprendre un avec l'ensemble? Ou est-ce qu'ils terminent le leur et ils adoptent le process que vous venez de mentionner? Ça, je ne peux pas me prononcer.
J'ai prévu qu'ils finissaient le leur. On avait demandé si c'était possible... De rentrer dans ce plan local d'urbanisme intercommunal.
Ça, c'est pas possible.
C'était trop tard et ça n'était pas possible. Donc, eux avaient l'ambition de le finir. Donc, ils vont le finir avant d'en relancer un autre. Mais de toute façon, avant de relancer un, il y aura de nouveau un schéma de cohérence.
Enfin, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Toujours est-il que là, dans le document où on est, il y a une chose de claire, c'est que c'est eux qui récupèrent la compétence à compter du 1er janvier. Et c'est une compétence obligatoire. Équilibre social et habitat. Donc là, c'est le programme local de l'habitat qui également sera géré par l'agglomération. Politique du logement d'intérêt communautaire, action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire, réserve foncière pour la mise en œuvre de la politique communautaire, action par des opérations d'intérêt communautaire, amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. Là aussi, j'ai lu tous les sous-titres de équilibre social et habitat. Politique de la ville, également compétence obligatoire. Donc il y a des diagnostics qui doivent être élaborés. L'animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain. Et d'autres points. Le cinquième domaine compétence obligatoire, c'est l'accueil des gens du voyage. Donc ça, ce sera une compétence également de l'agglomération. Sixième point, la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Voilà, là on a fait le tour de tout ce qui est compétences obligatoires aujourd'hui, sachant que dans les compétences obligatoires, dès 2018, va se rajouter obligatoirement ce qu'on appelle la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Non, ça veut dire que la politique, l'application du schéma départemental qui est en cours de révision d'accueil des gens du voyage, tout ça sera géré globalement au niveau de l'agglomération. C'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'avoir une aire d'accueil des gens du voyage, car notre communauté de communes était... inférieur à 5000.
Nous n'avions pas de commune de plus de 5000.
Nous n'avions pas de commune de plus de 5000 et nous étions, nous n'avions pas d'obligation. Mais là, aujourd'hui, l'ARC avait déjà obligation d'avoir des...
il en a une d'ailleurs. Hein.
Il en a une.
À Joux.
On n'est pas exclu quand on vient d'eux, par exemple, dans le secteur, les liens de grand passage. Ça aussi, c'est une obligation. D'avoir un lien de grand passage pour le grand rassemblement. Ça, ce sera la caution du
définiment. C'est vrai, les liens de grand passage, ça fait 10 ans que j'en entends parler. Hein, sur 100 litres, ils ne l'ont toujours pas trouvé. Sur Chantilly, ils ne l'ont toujours pas trouvé. Alors, je vois pourquoi.
Oui, voilà. Les liens, ça fait partie d'une des contrats. Les obligations sont plus compliquées.
Ben normalement, c'est une contrainte, c'est une obligation.
Pour l'ensemble de l'agglomération.
Oui, pour l'ensemble de l'agglomération.
Hein, pour l'ensemble.
Ah non.
Mais pour moi, les aires d'accueil des gens du voyage, donc ce qu'on appelle aires dans les classifications, on en a vu, il y a différentes classifications, c'était pour les communes de plus de 5000 habitants. Donc aujourd'hui, dans ce que dit la loi aujourd'hui, on n'a pas à créer d'aires d'accueil des gens du voyage sur Verberie.
Pour une commune, oui.
Pour une commune. Que dira la loi demain? Ça, c'est autre chose.
Encore une fois, la question de positionnement ensuite des aires, c'est une obligation à l'échelle interco. Ce qui veut dire que demain, son positionnement peut être sur une
Peut être changé.
De toute façon, mathématiquement, s'il est obligatoire et on rentre dans une phase où il faut vraiment le faire parce que voilà, d'adopter une aire de grand passage, il faudra bien qu'elle soit sur un espace géographique donné. Donc sur une des communes, ou plusieurs communes d'ailleurs, parce que ça peut être à l'injonction de plusieurs, de l'agglomération. Mais ça, c'est... Je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Hein. Ça promet, dans ce cas-là, des débats assez compliqués. Toujours est-il que, là encore... Hein, cette compétence-là, bon, Compiègne, l'agglomération, l'ARC l'avait déjà... Mais de toute façon, la loi NOTRe impose que ce soit les intercommunalités qui aient maintenant cette compétence.
Mais les deux fois, est-ce que ça a été refait? La dernière fois, il y en a eu pour 800 000 euros. De la réfection de l'air...
palette de l'air de grand passage.
Oui, elle est toujours dans le même état qu'avant les travaux.
Parce que généralement, quand il passe,
la première fois, c'était déjà pas ça. Non,
en général, non.
Bon, je vous propose de poursuivre parce que, bon, on pourrait y rester longtemps, mais là, on est en train de voir les compétences. Donc, je vous propose d'aborder les compétences optionnelles. Donc, dans les compétences optionnelles, je lis pareil que les grands titres de chapitre. Hein. Donc, vous avez pour la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, vous aviez... La protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie. Donc ça restera évidemment, ça fait partie des compétences de la nouvelle agglomération. Voirie et parc de stationnement. Alors c'est pas toute la voirie, hein. On parle bien de voirie d'intérêt communautaire. Création et parc de stationnement, c'est pareil, c'est d'intérêt communautaire. Voilà, construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Alors, de l'autre côté, du côté de la Basse-Automne, il y avait en compétence optionnelle la protection et mise en valeur de l'environnement, donc le nettoiement, débroussaillage et élagage de toutes les voiries communales. Donc ça, c'est une compétence qui va revenir vers les communes. L'aménagement, l'entretien et la gestion des circuits touristiques, cyclotouristiques, donc ça, l'agglomération de la région de Compiègne le gardera. La construction, l'entretien, le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, ils ont finalement quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que nous avions la construction, entretien et gestion de cours de tennis couverts et a priori ils n'ont pas cette compétence et je pense qu'il est très probable qu'ils rendent le tennis couvert qui est situé à Béthisy-Saint-Pierre à la commune de Béthisy-Saint-Pierre. Études, réalisation et financement d'actions contribuant à améliorer l'offre en matière de loisirs, de culture qui intéresse les habitants de toutes les communes, de la communauté de communes, ça c'est lié à Dagobert, je pense. Oui.
Oui, je ne sais pas si c'est... Oui.
Ouais. C'est lié à Dagobert. Donc typiquement, Dagobert, qui est situé sur notre commune, va très probablement revenir à la commune. Le soutien, la coordination des acteurs impliqués dans l'animation socio-culturelle et localisée sur le territoire de la communauté de communes. Donc ça... J'ai pas vu tout à fait la même chose chez eux. Participation au financement de la rénovation et de la construction des collèges. Bon, ça, c'était dans les compétences de la Bafétone, mais quelque part, c'est une histoire du passé. C'est terminé.
Ça va, c'est terminé.
Construction, entretien et gestion des équipements sportifs et culturels liés au collège. Là, c'est un peu pareil, sinon que Dagobert, je ne sais pas si on le met dans le petit B, dans le petit E, mais enfin, il est à cheval entre tout ça. Ensuite, on a ce qui est accueil de la petite enfance, dispositif du relais d'assistante maternelle. Donc là, l'agglomération de la région de Compiègne reprend cette compétence et la gardera. Accueil des loisirs et du temps libre des enfants adolescents de 6 à 16 ans. D'après ce qui a été dit, il ne compte, ça risque de l'agglomération, il est très probable que l'agglomération ne garde pas cette compétence. Alors après les compétences optionnelles, nous avons les compétences facultatives. Donc dans les compétences facultatives, nous avons l'assainissement. Donc là, pour le coup, effectivement, nous, on a aujourd'hui un CIVOM, mais dès 2018, l'agglomération de la région de Compiègne va reprendre la compétence assainissement. Ensuite, ils ont une compétence pour de la construction uniquement, hein, construction de halles des sports, construction d'équipements culturels et sportifs. Équipement de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Alors pour la construction, ils ont la compétence, donc celle-là, elle restera évidemment. Mais il est bien souligné après que les équipements dévolus à la commune seront gérés par celle-ci, notamment pour les halles de sport et les constructions scolaires. Ensuite, toujours du côté de l'agglomération de la région de Compiègne, gestion d'une résidence pour personnes âgées. Bon, ça peut sembler assez curieux. Je pense que c'est le... C'est l'histoire qui fait ça. Hein? Voilà. Ils en ont une. Bon, ils la gardent. Voirie communale. Donc là, c'est plutôt de l'aide et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, puisque c'est présentation à la demande des communes membres de programmes de voirie communale auprès des collectivités, organismes financiers, aménagement et entretien des pistes cyclables. Là, ils ont la compétence. Donc, ils vont effectivement agir sur toutes les pistes cyclables, comme le faisait la Basse-Automne sur notre territoire. Et ensuite, opération d'aménagement urbain et réhabilitation des centres-bourgs. En incendie, ils ont donc la gestion et l'équipement des corps de première intervention non encore départementalisés. Pour la sécurité, il s'agit de l'aide, notamment de l'aide pour le recrutement d'agents de police, bon, mise à disposition des communes membres. Le pays compiénois, qui était aussi une compétence de toute façon de la Bafétone. Les loisirs et sports aéronautiques, ça c'est l'aérodrome de Marnilles-et-Compiègnes. Création et gestion d'un crématorium, bon, ça me coûte bon.
C'est Saint-Sauveur.
C'est Saint-Sauveur. Bon, la réalisation, oui, la gestion, bon. Et ensuite, des fonds de concours qu'ils peuvent attribuer aux communes pour différents projets. Donc, vous en avez toute une liste. Non, c'est les communes de moins de 2000 habitants, c'est pour le premier alinéa. Hein. Le reste, c'est pour toutes les communes. Ensuite, la compétence eau. Donc, pareil, le CIVOM en 2018 gardera la compétence eau, mais il la perdra en 2019, puisque l'agglomération de la région de Compiègne va reprendre la compétence eau. pour la communauté de communes de la Basse-Automne. Donc la nouvelle agglomération, et on a beaucoup insisté pour obtenir ce point-là, va effectivement reprendre la compétence très haut débit et la gardera. Et notamment à ce titre-là, elle va rentrer dans le syndicat mixte Oise très haut débit. Pour les systèmes, il y avait également une compétence système d'information géographique, mais en fait, elle est aussi dans la nouvelle agglomération. Donc là, c'est plutôt des transferts, c'est transparent. Le fonctionnement du pays compiénois, c'est pareil. Voilà. Je crois que au niveau de cet arrêté de périmètre avec toutes les compétences, on reviendra peut-être sur certains points, on peut déjà un peu y venir. On a parlé des PLU, donc plan local d'urbanisme. Donc vous posiez une question à ce sujet-là, monsieur Lamy, je pense que là on y a répondu. Il y a aussi la compétence transport, donc puisque l'agglomération de la région Compiègne est autorité organisatrice des transports. Dans ce cadre-là, je cherche mon papier que j'espère retrouver. Voilà. Donc la compétence transport, pour en parler un petit peu. Tout d'abord, la compétence transport au niveau de l'agglomération de la région de Compiègne, pour l'instant, c'est un budget de 7 millions d'euros qui est abondé en partie par le budget général pour au maximum 500 000 euros. Voilà, ça c'était l'an dernier. Et le reste, au moins en grande partie, c'est sur le versement transport des entreprises, sachant que toute entreprise de plus de, je crois que c'est plus de 10, hein, entre 10 et 11, j'hésite toujours, je sais jamais si c'est plus de 10, hein. Donc c'est à partir de 11 en fait, ou à partir de 10. Enfin, bon, à partir de 10, sont soumises à ce versement transport sur la masse salariale. Donc c'est un pourcentage de la masse salariale. Aujourd'hui, au niveau de l'agglomération de la région de Compiègne, ils sont à 0,8%, sachant que 0,6% restent au niveau de l'agglomération et 0,2% partent au niveau du département. La communauté de communes de la Basse-Automne, n'étant pas autorité organisatrice des transports, versait 0,4%. Au département. Ce qui fait que concrètement, pour une entreprise, elle va avoir son versement transport doublé, passer de 0,4 à 0,8. C'est une chose assez douloureuse parce que le pourcentage n'est pas élevé, mais par contre il s'applique sur la masse salariale qui, elle, est évidemment une somme très très importante. Donc c'est un domaine qui est assez sensible, en particulier pour les grosses entreprises. Puisque quand on a 500 salariés par exemple sur la commune de Verberie, ça va très vite. Alors derrière ça, quels sont les retours? En fait aujourd'hui, c'est basé sur les chiffres 2015, la communauté de communes de la Basse-Automne transmettait finalement au conseil départemental 167 642 de, c'est du moins les chiffres que j'ai, de versement transport. Ce qui fait que comme là, on va passer de 0,4 à 0,8, ça va faire plus de 330 000 euros. Sachant que dans ces 330 000 euros, 251 000 vont revenir à l'agglomération, la région de Compiègne et de la Basse-Automne, et 83 800 au département. Voilà comment ça va s'articuler. Comment ?
0,2.
Oui, 0,2.
0,2% de 300.
De 167 000. Enfin, pardon, 167 000, c'est 0,4%. Donc 0,2%, ça fait la moitié. Donc on est à 83 800, quelque chose comme ça. Qu'on reverse, qui sont donc reversés au département. Derrière ça, l'autre élément qui vaut d'être connu aussi, c'est que sur les 167 000 au niveau de la Basse-Automne, 642 euros de versement transport, 150 000 euros proviennent de Verberie. Voilà, c'est... Et derrière, l'agglomération de la région de Compiègne travaille actuellement sur un projet qui n'est pas finalisé, qu'elle souhaite finaliser dans le cadre de la nouvelle agglomération avec l'ensemble des communes et en particulier les communes de la Basse-Automne pour une mise en œuvre au mois de mars 2017. Ce qui est prévu quand même à grosse maille, parce que s'il y a un projet, il y a quand même derrière des... Il y a quand même des traits forts de ce projet. Aujourd'hui, il y aurait une ligne de bus qui ferait Verberie, La Croix, Compiègne, qui pourrait aller de 7 à 10 allers-retours par jour à affiner. Et ensuite, les autres communes de la Basse-Automne seraient rabattues sur Verberie par le biais du transport à la demande halotique pour prendre les bus. Voilà aujourd'hui quel est leur projet, qui disent-ils tient dans les 250 463 euros. Voilà ce qu'on sait de cette affaire-là aujourd'hui. Voilà. Et elle reste bien sûr à affiner complètement à partir du mois de janvier au travers de réunions qui seront organisées. Voilà, je pense avoir répondu à la question sur les transports, du moins donné les éléments qui étaient pour l'instant, dont j'avais pour l'instant connaissance. Après la compétence, les aspects financiers. Alors sur les aspects financiers, il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que nous passons en fiscalité professionnelle unique. Donc tout ce qui était fiscalité des entreprises qui arrivaient sur la commune vont partir vers l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne. Néanmoins, il va y avoir des attributions de compensation qui compenseront exactement sur les chiffres 2016 et définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'évolution après, normalement, qui compenseront effectivement le, entre guillemets, manque à gagner de la commune. Voilà, j'ai donné quelques éléments sur ces points-là. Aujourd'hui, de toute façon, pour toutes ces estimations d'attribution de compensation, il y a eu des évaluations qui ont été faites sur 2015, mais les évaluations finales seront à faire sur les chiffres de 2016, donc ça sera à faire en cours d'année. Simplement pour passer les fiscalités un peu en revue, sachez que pour les entreprises, il y a donc la CFE, contribution foncière des entreprises, je crois que c'est le terme exact, hein, on dit CFE. Hein. Actuellement, elle est en fait, quand on compte le taux de la commune de Verberie et le taux de la Basse-Automne, c'est le principe de la fiscalité additionnelle, elle est de 24,31%. Celle de l'agglomération de la région de Compiègne aujourd'hui est de 24,84%. C'est donc une hausse entre les deux de 2,2% qui peut être lissée sur 12 ans, c'est-à-dire 0,18% par an. Bon, voilà où on en est pour ce qui est la contribution foncière des entreprises. La CVAE, donc sur la valeur ajoutée pour les entreprises. Là, c'est transféré à l'agglomération. Il n'y a pas de différence puisque de toute façon, c'est un taux imposé par l'État. La TASCOM, donc que paient les ventes au détail de plus de dont la surface commerciale excède 400 m² avec un chiffre d'affaires de plus de 460 000 euros. Aujourd'hui, le coefficient au niveau de la Basse-Automne est de 1. Au niveau de l'agglomération de la région de Compiègne, il est de 1,2, soit 20% au-dessus. Alors, derrière ça, là, de toute façon, à terme, je pense qu'il ne faut pas se tromper, on va aller vers 1,2. Donc, les commerces de plus de 400 m², ben, vont payer sur cette base-là, sachant qu'à ma connaissance, à Verberie, Carrefour Contact est le seul qui ait plus de 400 m² de surface commerciale. Là, il y a deux choses. Soit l'agglomération vote un nouveau taux, et auquel cas c'est celui qui s'appliquera. Alors, j'ai plus les délais en tête, hein, mais soit elle ne vote pas un nouveau taux, et dans ce cas, elle est obligée de repartir du coefficient 1 et de monter de pas plus de 5% par an. Voilà. Donc, la première année, en gros, ce serait 1,05 et puis ça montrait comme ça progressivement jusqu'à 1,2. Dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de choix entre les deux aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt eu le sentiment qu'on partirait sur le lissage dont je viens de parler à 5%, mais je n'en ai pas de certitude, puisque quand même il y a une conséquence qui est très directe, c'est que dans un premier temps, alors ils perdent pas vraiment globalement, puisque il y a quand même le coefficient 1 s'applique sur une base plus large, mais quand même bon, il y a un manque à gagner très clair pour l'agglomération. Les taxes dites IFER, donc tout ce qui est réseau, ça c'est imposé par l'État, on n'a pas de marge dessus, donc c'est transféré, point final. Le versement transport, je viens d'en parler, j'y reviens pas. Voilà, donc ça c'est la fiscalité des entreprises.
Une taxe de séjour pour le tourisme.
Alors, effectivement, à partir du 1er janvier 2017, la taxe de séjour, qui ne s'appliquait pas sur la basse automne, s'appliquera sur le nouveau périmètre. Tout à fait.
C'est combien ? C'est 50 centimes par personne et par nuit. D'accord.
Sur ce point-là, on avait la possibilité, avant le transfert, comme vous l'avez dit, d'avoir été au niveau communal, de préserver cette recette.
Oui. Ouais. Alors d'abord, bon, c'est une recette qui est assez minime sur la commune. Et ensuite, d'un autre côté, voilà, on rentre dans une logique. Enfin, on pouvait certes faire ça, mais on rentre quand même dans une logique d'ensemble.
La différence quand même, c'est que 1 euro pour nous est 29 fois plus important qu'un euro pour eux, puisque vous avez parlé des budgets tout à l'heure.
Bah on y reviendra, on va en parler sur tout ça.
C'est, même si elle est minime, ça aurait pu être intéressant pour qu'il en soit pour nous.
Alors il y a aussi la taxe, typiquement il y a la taxe sur la publicité, on va la perdre également. Hein. C'est pas des gros montants, mais derrière on va la perdre également. Alors justement, quand on parle de tout ça... pour tout ce qui est donc produits de CFE, IFER, CVAE, TASCOM, alors j'ai pas la somme, on y reviendra tout à l'heure quand j'aurai parlé de la fiscalité des ménages. Donc fiscalité des ménages, il y aura une neutralisation, alors la procédure qui serait choisie est une procédure qui vise justement à n'avoir... toute chose restant égale par ailleurs, n'avoir aucun effet sur les ménages, tout restant égal par ailleurs, évidemment, au travers d'un coefficient de neutralisation. Donc typiquement aujourd'hui, sur la commune, nous avons, d'une part, il faut... Enfin, sur la taxe d'habitation, c'est sans doute l'affaire la plus complexe. Au moment de la réforme de la taxe professionnelle, il y avait 8,34% de la taxe d'habitation qui allait au département et qui a été reversée à la commune. Dans la fiscalité professionnelle unique, ces 8,34% vont obligatoirement vers la communauté d'agglomération. D'accord ? Donc aujourd'hui, typiquement... nous en sommes avec un taux communal de 19,74%. La basse automne a un taux, elle, de 3,13%, ce qui fait que la somme des deux, ça fait 22,87%. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est exactement le même taux qui va s'appliquer aux ménages. C'est-à-dire que l'agglomération de la région de Compiègne continuerait sur son taux actuel, qui est de 9,37%, et le taux communal voté serait de 13,5%, avec donc une neutralisation de 2,1%. Ça, c'est pour le calcul des attributions de compensation. Toujours est-il que pour le foyer, un foyer de Verberie, comme d'ailleurs dans toute la basse automne, ce transfert, toute chose restant égale par ailleurs, hein, si l'État décide de faire une réforme, il est évident que les choses bougeront. Si l'État réévalue, comme chaque année, les bases locatives, ben les choses bougeront légèrement avec cette évaluation. Mais toute chose restant égale par ailleurs, il n'y aura pas de mouvement à ce niveau-là. Et ce que je viens de dire, ça vaut pour toutes les taxes de la fiscalité minage, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier et la taxe sur le foncier non bâti. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là, sachant que cette mesure de neutralisation est une mesure dérogatoire, puisque la mesure de droit commun nous ferait passer sur un taux pour l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Autonne de 9,37% à 9,55%, puisque c'est le taux moyen pondéré qui s'appliquerait. Et que, en fait, sur la Basse-Autonne, quand on ajoute les 8,34% aux 3 et quelques pourcents, en fait, on est au-dessus des 9,37%. Voilà la raison. Des questions sur cette affaire de fiscalité? Quand on... Alors, je retrouve le chiffre. Quand on fait la somme de tout ça, en fait, nous, en attribution de compensation, on perdra, que je ne dise pas de bêtises, sur... attendez. Sur tout ce qui est fiscalité des ménages, on perdra 3 301 euros. Tout simplement parce que on aura un pourcentage plus bas sur la taxe d'habitation, mais un pourcentage plus élevé sur le foncier. C'est essentiellement ça qui joue. Quand on prend la totalité des taxes, donc on aura une attribution de compensation positive. Alors c'est l'évaluation qui a été faite sur 2015. Donc de toute façon, les chiffres définitifs, je rappelle, c'est 2016, de 1 050 000 euros. Hein, puisque vient s'ajouter à ce que je viens de dire, toute la fiscalité des entreprises. Je cherche mon cahier là. Voilà. Je rappelle aussi qu'au passage, par contre ça nous pénalise, nous allons perdre le fonds de péréquation, le FPIC, donc 40 000 euros. 40 000 euros qui devraient être en partie compensés par la dotation de solidarité communautaire, puisque l'agglomération de la région de Compiègne verse aujourd'hui une dotation de solidarité communautaire de 8,60 euros par habitant. Donc pour nous, ça devrait faire 35 931 euros. Donc une compensation en partie. Voilà pour les affaires financières. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces affaires-là. Non, pas pour l'instant. Donc je continue sur les attributions de compensation. Sur les attributions de compensation, nous avons vu tout ce qui était fiscal. Il y a derrière tout ce qui touche au transfert de compétences. Donc le très haut débit est pris en compte par l'agglomération de la région de Compiègne, donc il n'y a pas d'attribution de compensation. Par contre, si l'espace d'Agobert nous est rendu, aujourd'hui nous aurions une compensation de 135 856 euros, ce qui nous permettrait à la fois de faire le fonctionnement, mais aussi l'entretien. Sur la voirie, 1980 euros. Enfin, après, on est sur des petits chiffres. Les plus gros chiffres repassent sur le balayage. Je vous ai dit que le balayage était retransféré aux communes tout à l'heure pour 31 971 euros. L'élagage des broussaillages, 11 000 euros. Les séjours jeunesse, 17 000 euros. Ce qui fait, au passage, je regarde, ce qui fait que nous toucherions, quand on fait la somme de tout, 38 000, près de 40 000 euros, près de 40 000 euros parce qu'aux sommes que je vous ai indiquées, il convient de retirer la contribution pour le SDIS, donc les pompiers, parce que c'est l'agglomération qui le paiera directement. Or, cette contribution, elle est pour nous de 183 000 euros par an. Voilà, j'en ai définitivement terminé pour les affaires de finances.
Les éléments, la gobelle.
Oui. Alors, attendez. Effectivement, le personnel est intégré. Enfin, toutes les charges de fonctionnement sont intégrées. D'accord ?
Je crois qu'on pensait.
Oui, toutes les charges de fonctionnement sont effectivement intégrées, dont les personnels. Et il y a aussi, est intégré, sur la base du prêt qui avait été fait à l'époque, l'amortissement. Et c'est bien ce qui va nous permettre d'entretenir ça d'Agobert, hein, pour une somme qui est quand même pas négligeable. Je suis en train de la chercher, là. 135, c'est la somme des deux. Hein. C'est 30 000 et quelques.
Une trentaine de mille euros par an.
Oui, c'est ça, c'est une trentaine de mille. En fait, 21 000 au titre des travaux, 10 000 au titre des frais financiers et 13 000 au titre des biens mobiliers. C'est même un petit peu plus que ça, c'est autour de 40 000 euros.
Moi, je trouve ça très bien que Dagobert reste dans le giron communal.
Oui.
Je le précise. Mmh. Parce que c'est une salle qui participe très largement à la vie de la commune et au-delà même.
Associative, oui.
Voilà, mmh. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est une très très bonne chose. Donc, il faut maintenir le cap sur ce point-là. Bon, néanmoins, il faut noter que même si les transferts à l'instant T de ceux-ci sont parfaitement équilibrés, sur les années qui suivent, forcément,
vous prenez les lignes. Ah, c'est pour faire les lignes pareilles.
Ce qui veut dire que sur les années qui suivent, on aura effectivement un alourdissement des budgets sur ce poste.
Bien sûr.
On est, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, dans les attributions de compensation, elles sont fixées une fois pour toutes. Aujourd'hui, dans ce qui a été évalué, elles sont, on a été très vigilant là-dessus, bien évaluées. Ceci dit, comme je l'ai répété tout à l'heure, ce ne sont aujourd'hui que des évaluations, et en fait, la vérité des chiffres, ce sera après la réunion de ce qu'on appelle la CLET, donc la commission locale de transfert
d'évaluation des transferts de charges.
D'évaluation des transferts de charges. Et cette commission, bah, elle se réunira après le 1er janvier. Elle est composée au minimum d'un élu par commune. Par contre, le reste de la composition reste très vague. Mais au moins, chaque commune est représentée par un élu. Voilà. Et c'est à l'issue de ces décisions que les attributions de compensation seront accordées. Ceci dit, tout le travail qui a été fait là sera forcément pris en compte. Je rappelle que c'est pas un travail qui a été fait en interne, c'est un travail qui a été fait par un cabinet spécialisé, un des deux cabinets spécialisés en France. Ici, en l'occurrence, le cabinet Kopfler qui a fait cette évaluation.
Avec les éléments que nous avons
entendus. Oui.
Bah, il n'y a pas de miracle dans ce domaine. Il n'y a pas de miracle.
Qui était très précis.
Et les études ont d'ailleurs été cofinancées par la communauté de communes de la Basse-Automne et par l'agglomération de la région de Compiègne. Voilà. Autre question sur les aspects financiers ?
Juste pour dire quand même par rapport à la question de la FPU, le gros avantage pour nous, c'est que si demain on devait avoir malheureusement ce qui arrive, une grosse fermeture d'entreprise, par le principe de solidarité autour de la FPU, nous n'aurions pas à le subir comme ce ne serait pas une catastrophe entre guillemets pour la commune, en dehors bien évidemment des questions d'emploi et autres. Oui. Mais financièrement parlant, ça
c'est quand même une catastrophe.
Pour les particuliers, en fait, le taux global sera exactement le même. La différence, c'est que dans les cases, le taux ne sera pas le même. La commune et la communauté de communes, le taux baissera pour la commune, augmentera pour la communauté de communes. Mais le total sera totalement identique.
Sur la feuille d'impôt du particulier, c'est la répartition entre la commune et la communauté de communes qui va changer. Mais la somme en bas sera la même.
Voilà.
Donc, voilà.
Dans un premier temps.
Dans un premier temps. Après, la communauté d'agglomération vit sa vie, peut voter des taux. Et la commune aussi, d'ailleurs.
Et la commune aussi, d'ailleurs.
On quitte cet aspect. Alors, autre aspect maintenant, on va se rapprocher de l'élection qui va se passer, puisque c'est la gouvernance. Donc, la gouvernance, évidemment, ça fait l'objet d'une loi pour calculer la répartition du nombre de conseillers communautaires en fonction de la démographie, en fonction d'abord du nombre de personnes totales dans l'agglomération, ensuite de la démographie de chaque commune. Alors, il y a un régime commun et on peut s'écarter de ce régime commun au travers d'un accord local. Bon, aujourd'hui, et c'est ce qui est marqué dans l'arrêté que j'ai sous les yeux et qui vous a été transmis, le choix qui a été fait, c'est de rester sur l'accord, enfin sur la règle commune.
Donc, le choix qui a été fait par là.
Alors, le choix qui a été fait effectivement par l'agglomération de la région de Compiègne et là, par le préfet. Il faut savoir que de toute façon, pour s'écarter de l'accord de la règle commune et aller vers un accord local, il faut ensuite des votes de toutes les communes, les conseils municipaux, et notamment il faut que, si je me souviens bien, c'est un vote à la majorité qualifiée, et il faut que 2/3 des communes représentant au moins 50% de la population donnent leur accord. Or, on sait très bien que de toute façon, et on l'a vu dans les discussions, toutes les communes de l'Arc, et en particulier les petites d'ailleurs, parce que ce jeu-là les surreprésente, mais c'est normal qu'elles soient présentes, hein, toutes les communes veulent rester sur cette règle commune, sur cette règle de base. Sachant qu'en appliquant cette règle de base, on arrive quand même déjà à 53 délégués, ce qui est quand même important. Après, quand on va vers l'accord local, ça va vers une augmentation du nombre de délégués. Je crois jusqu'à 65, on pouvait aller jusqu'à 65. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas refait le calcul moi-même, mais c'est ce que j'ai en tête.
20% de plus.
Oui.
25%.
C'est 2/3 des communes représentant 50% de la population ou 50% des communes représentant 2/3 de la population.
Tout à fait. Mais de toute façon, dans les deux cas, on voit bien que la situation était complètement verrouillée. Donc, compte tenu de ça, le préfet a sorti un arrêté dans lequel il indique qu'il y aura 53 conseillers communautaires, 25 de Compiègne, 5 de Margny-les-Compiègne. Donc, ces deux villes, à elles seules, ont la majorité. Très clairement. Ensuite, La Croix-Saint-Ouen, Verberie, Choisy-Aubac ont deux conseillers chacune et toutes les autres communes ont un conseiller communautaire. Voilà ce que donne la répartition de la règle de droit commun. Alors, celles qui n'ont qu'un représentant ont effectivement le droit d'avoir un suppléant, c'est-à-dire quelqu'un qui peut remplacer le titulaire s'il n'est pas là. C'est la définition même du suppléant. Mais nous, donc, nous allons devoir procéder à une élection qui concerne deux conseillers communautaires. Et là, il n'y a pas de suppléant. Alors, l'élection des conseillers communautaires qui doit donc avoir lieu, qui ne pouvait avoir lieu avant le 15 décembre, puisque le préfet a sorti l'arrêté de gouvernance le 15 décembre, donc ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui presque à la veille de Noël, que l'assemblée constitutive, ou la première assemblée de la nouvelle agglomération aura lieu le 5 janvier. Donc le créneau était quand même très court. Nous avons reçu donc des documents qui vous ont été transmis, qui indiquent notamment dans ce qu'a écrit le préfet, qui accompagne l'arrêté de gouvernance. Pour les communes de Margny et Compiègne, La Croix-Saint-Ouen, Verberie, Béthisy-Saint-Pierre, Venette et Béthisy-Saint-Martin, communes plus de 1000 habitants dont le nombre de sièges a diminué, je rappelle que nous avions 11 sièges au conseil communautaire de la Basse-Automne, et maintenant, nous allons arriver à 2 sièges. Le conseil municipal doit réélire ses conseillers communautaires parmi les conseillers communautaires sortants, d'accord, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Voilà ce qui est dit pour la commune de Verberie. Il y a un chapitre, évidemment, pour toutes les communes, mais on va en rester là, vous l'avez eu de toute façon, et j'ai lu ce qui nous intéressait directement. Voilà, donc il va être maintenant temps de passer à l'élection. Donc, Madame Javelot, je vais demander quelles sont les listes. D'accord, donc Monsieur Floury, vous présentez une liste avec Madame Barouin.
Non.
D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des bulletins? On va donc mettre en place un papier libre, ça va prendre 2 minutes, hein, que vous puissiez écrire les noms pour ce... voilà. On va patienter quelques instants avant de passer au vote. Alors ceux qui ont un pouvoir ont droit à 2 enveloppes. Hein. Alors vous attendez, on va vous distribuer un papier blanc hein, que vous puissiez éventuellement. Alors deuxième liste, je me présente, enfin Patrick Stéphane et moi nous présentons en tant que également deuxième liste comme conseiller communautaire à l'agglomération de Compiègne.
Michel Arnoux, Patrick Stéphane.
Oui, c'est plus simple.
Donc, liste Arnoux. 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 Liste Floury. Liste Floury. Liste Arnoux. Liste Floury. Liste Floury. Liste Floury. Liste Floury. Liste Arnoux. Liste Floury. Liste Floury.
Donc combien?
Il faut recompter le temps.
17.
8. 1, 2, 3.
7
heures. Ok. Comment ? 17 liste Arnoux, 8 liste Floury. Donc, liste Arnoux, 2 sièges. Voilà. Merci. Bien, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc, point suivant de l'ordre du jour, programmation 2017, conseil départemental. Donc, on a réuni la commission travaux et la commission urbanisme avant la réunion du conseil municipal, sachant que nous avions un dossier à soumettre au conseil départemental pour recevoir les subventions dans chacune des catégories. Donc le premier dossier concerne l'école maternelle des remparts, sachant que c'est un dossier qui concerne à la fois la réfection partielle de la toiture, parce que nous avons en fait une partie de la toiture qui est extrêmement abîmée. C'est la partie la plus récente d'ailleurs, mais les tuiles, tu veux peut-être en dire un mot, Francis ?
Les tuiles sont poreuses et puis il y a des trous.
D'accord.
L'agrandissement de l'école maternelle. Toute cette partie-ci, les tuiles sont poreuses. Donc on est obligé de remplacer l'ensemble de cette partie de toiture.
Elle a quel âge cette partie de toiture ?
Ça a déjà au moins. Mais enfin, de toute façon, si cette partie-là est vraie, c'est parce qu'il y a eu une série de tuiles. Moi, la tuile de Beauvais a été très mauvaise parce que moi j'avais des couvreurs et ils ont eu des problèmes avec la tuile de Beauvais à une certaine époque. Et même chez c'est moi un des joueurs qui avait sa barrage lui-même en tuile de Beauvais, c'est obligé d'en faire en 10 ans parce que les tuiles étaient mortes. Mais ça a dû être fait dans les années, moi j'ai fait 80
ans. Il y a une vingtaine d'années,
plus de 20 ans.
Plus de
20
ans.
Alors que la partie la plus ancienne, elle n'a pas bougé. C'est la qualité de la tuile qui est. Qui est
Quand vous regardez à l'école maternelle, vous allez voir la ligne.
Alors ensuite, il y a la réfection. Alors c'était marqué partiel. En fait, ce serait la réfection totale de la tour. Tout simplement parce qu'en même temps, on en profite pour régler les problèmes d'accessibilité. Et que donc à ce moment-là, il faut refaire les seuils des portes qui sont un peu plus hauts. Donc voilà, ça entraîne, sauf à faire un morcelage important, hein, une espèce de mosaïquage, ça implique de refaire la totalité de la cour. On a d'ailleurs aujourd'hui Jean-Claude a commencé à couper les tilleuls qui se trouvent là-bas, les platanes, pardon, qui se trouvent là-bas. Tout simplement parce que les platanes, si on l'a refait, c'est parce que les racines ont complètement soulevé tout ce qui est macadam, tout ce qui est enrobé. Et si on veut pas que ça recommence de la même façon dans 3 ans, eh bien la seule solution, c'est d'enlever les arbres. Mais on va en remettre de nouveau en bosquet mais cette fois-ci, on va en contrôler soigneusement l'étalement. Et puis, on va prendre des arbres qui ont plutôt des racines verticales que des racines horizontales.
Juste une petite parenthèse. Ceci ne coûte rien à la municipalité. C'est moi qui offre les compétences de ma société pour abattre les arbres. Ce sera coûté une certaine somme. C'est moi qui offre les compétences pour abattre les arbres.
Donc, merci. Merci Jean-Claude. Hein, je dois dire que tu as aussi à un moment donné coupé un arbre sur le bord de la départementale, et toujours en liaison avec Monsieur Lebrun, tu as coupé aussi un ou deux arbres qui se trouvaient à l'intérieur du parc et qui menaçaient de tomber, qui présentaient un vrai danger. Donc merci beaucoup.
Voilà. Par contre, il serait bien de mettre à chaque entrée du château attention danger, chute de branche, ça protège.
Ouais.
J'ai dit de le faire dans un parc qui est pas loin d'ici. Dans un parc de château qui est justement communal, les gens ils peuvent y se promener. Parce qu'il y a une petite gamine qui a pris une branche sur l'épaule et bon, ça s'est bien fini, mais donc moi personnellement je le ferai. Ça ne coûte rien, on regarde de toute façon, manger sur deux branches. Parce que notre parc de château, il ne faut pas l'oublier, qui est vieillissant. Et beaucoup d'arbres sont fatigués. Donc après l'humain est habitué à un truc, à un arbre, il faut que ça reste, ben non. Malheureusement, c'est quand même en forêt, ça, on aborde parce qu'il faut régénérer une forêt. Donc, on a notre parc vieillissant, donc il y a beaucoup de boulot qu'on a vérifié. Beaucoup d'arbres blessés, abîmés par les tempêtes. Hein, je pense qu'une coupe en parc, ça coûte 3 francs 6 sous que de faire un nettoyage complet du parc qui serait. Au moins, ça prévient. Il y a quand même beaucoup de passages au prochain. Voilà, juste ce que je voulais dire.
Ça veut dire aussi qu'il faudrait penser aussi peut-être
à replanter.
À replanter,
oui, à changer.
Si on a envie d'espèces
qui
prennent du temps,
pousser
les espèces qu'on
a moins
aujourd'hui,
malheureusement. L'humain, comme je dis, est habitué avec des très gros arbres. Il y en a certains qu'on voit, même moi j'ai sauvé la vie à des arbres au château Saint-Corneille, qui est ici. Ils voulaient, les propriétaires, ils voulaient qu'on abatte des platanes pour 400 ans. J'ai refusé. Donc on les a juste élagués, on leur a sauvé la vie. Parce qu'il ne faut pas penser toujours qu'à plus grand rien, il faut essayer de sauver la vie. C'est comme un animal qui est malade, on essaie de lui sauver la vie, on en a fait pareil. Je pense que je prendrai une bonne semaine de mon temps et puis il faudra quand même vérifier un rapport avec M. Leblanc, tout ça, prendre votre temps et puis. Il y a quand même pas mal d'arbres qui sont fatigués au niveau du pied, de la tête. Après, sans penser de les abattre, juste des élagués, leur donner un peu d'air pour qu'ils respirent. Et puis, on replantait des belles essences, quoi. Des charmes, des pins, quand même des choses intéressantes, quoi. Voilà. Donc, c'est une partie espace vert que je vais déjeuner en.
Alors. Donc, après les arbres, il y a, et c'est d'ailleurs le gros du budget, le remplacement total des menuiseries, portes et fenêtres, parce qu'elles commencent à être bien fatiguées, et notamment au niveau thermique. Commentaire sur cette affaire-là, sur la fatigue, soit Monsieur Leblanc, soit sur la fatigue des menuiseries extérieures.
Bah, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, les menuiseries extérieures, on n'arrive pas à les entretenir correctement. Et du coup, nombre d'elles sont devenues poreuses et sont agressées par certains champignons. Je ne sais plus quelle est l'étape la maternelle, mais voilà, les oiseries sont d'origine. Donc, on ne pourrait pas, en gros, les rénover aujourd'hui. C'est pas possible. Il faut partir sur l'option remplacement. Et en plus, pouvoir se mettre à la norme ADAP, la norme pour les personnes de mobilité réduite, et également. Sur l'isolation, c'est bien thermique que phonique du bâtiment par le remplacement des vitres.
Et on est obligé d'aller sur des fenêtres en bois.
Oui, alors ça c'est une discussion que nous avons.
Dans le cadre du périmètre de l'église, des 500 mètres, ici par exemple, il y a eu obligation de remettre des fenêtres.
Comme pour celle de l'école du centre.
Mais l'école maternelle est dans le même cadre que l'école.
Alors ici. Ici, a priori, je pense que... Bon, ici, on est dans le cadre des 500 mètres, de la co-visibilité, etc., avec l'église. Je pense que c'est pas la même chose à l'école maternelle. On n'est pas dans le cadre de la co-visibilité. On a bien sûr un avis simple, de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, mais pas un avis conforme. Donc on doit pouvoir
pas
se...
Pour les 500 mètres, ouais.
Alors il n'y a pas que l'affaire des 500 mètres qui joue, hein. C'est plus... C'est plus complexe que ça,
c'est
en fait. Hein.
La co-visibilité.
C'est la co-visibilité.
Et en plus, ça dépend de chaque architecte. Hein. Parce que bon, on en avait qui autorise les fenêtres en PVC puis autre part. Bon, d'autres qui autorisent les volets en bois, mais pas en.
Ici, alors on retient avec.
Moi, c'était ça, il fait ça ici, c'est ça sur la place, l'obligation des. Ça dépend de chaque architecte des bâtiments.
Bon, là, bon, si c'est un avis simple, de toute façon, on peut passer outre, typiquement. Là, on a donc fait rédiger une, un devis par un architecte. Donc la société, Monsieur Leblanc, c'est la société Idoneis qui a déjà réalisé des travaux pour la commune et notamment à l'école des remparts où ils ont créé la salle des maîtres. Ils avaient également travaillé sur au terrain de football sur le clubhouse. Donc c'est des personnes qui avaient donné satisfaction à la commune à l'époque. Et donc il a semblé intéressant de repartir avec eux, sachant qu'ils ont rédigé un devis et que dans ce devis, on a pris deux options, une option PVC et une option bois. Donc aujourd'hui, entre l'option PVC et l'option bois en TTC, on est à 270 000, pardon, on est à 324 628 euros, voilà, et...
Ah, il y a tout là. La VRD, il y a tout.
Il y a tout.
Ah oui, d'accord.
Ouais, mais bon, la différence sera la même.
Une partie.
Une partie.
Et donc, dans la partie PVC, c'est combien, monsieur ?
Si on prenait l'option PVC, donc toiture, boiserie et réfection de la cour, on serait à 269 168, soit une différence de 54 660 euros de TTC. Entre le bois et le PVC, on a déjà 55 000 euros de
différence.
Alors, passons au moment où on en est là, puisqu'il s'agit de faire le dossier de subvention. Moi, je propose de retenir le dossier le plus cher et le choix définitif interviendra après la procédure de marché avec la commission. Voilà, en repassant ici, on choisira ensuite et en fonction aussi de l'avis de l'architecte des bâtiments de France s'il était en avis conforme. Voilà, ça c'était le premier dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? Non ? Deuxième dossier. Donc le deuxième dossier concerne les trottoirs de la rue Juliette-Adam. Merci. Les trottoirs de la rue Juliette-Adam, sachant que derrière cette affaire-là, il y a tous les travaux du CIVOM qui vont être conduits a priori du mois de juillet au mois d'octobre pour refaire l'assainissement de la rue de Paris, de la rue Juliette-Adam, qui, dans le lieu de diagnostic, sont en urgence une, et même plus que une.
Fortement dégradé.
Voilà, je te laisse la parole là-dessus.
Oui, donc nous nous sommes réunis à deux reprises récemment avec notre assistant maître d'ouvrage et l'ingénieur qui suit nos travaux. Et parce qu'il fallait qu'on présente nous aussi nos demandes de subvention avant le 31 décembre au conseil départemental et qu'on prépare également le dossier pour l'agenda qui a exigé que nous fassions un marché unique. Pour tous les travaux qui relèvent des priorités 1. Et ça représente en tout plus de 2 300 000 euros. On a réalisé, donc nous avons fait un phasage avec une tranche ferme qui sera réalisée en 2017, qui sera donc la rue de Paris et la rue Juliette-Adam, ainsi que les postes de Moulin et Alexis Garel. Et ensuite, il y a une tranche un petit peu moins importante. En 2018, ça sera fait évidemment sur la maîtrise d'ouvrage arc et une autre tranche en 2019. Mais nous sommes tenus de compte, ce sont les mêmes travaux, la même fonctionnalité. Nous sommes obligés de faire un marché unique au regard de la loi et également pour avoir des financements. Déjà dès maintenant, dans la perspective en termes de financement. Et donc tout cela, au mois de juin, on prévoit de consacrer pratiquement un mois à la préparation des chantiers pour que les travaux se déroulent au mieux. Il y aura aussi de la réfection d'eau potable. Parce que dans la régie étalant, il y aura besoin de faire du renforcement pour la défense incendie. Il y aura du renouvellement de réseau, parce que c'est un peu présentiel, qui date plus de 1955. Et donc voilà, si ce n'est pas les mêmes entreprises qui font l'assainissement, l'eau, forcément il y aura plusieurs entreprises, il faudra une bonne coordination pour impacter le moins possible la circulation et la population, surtout que ce sont des axes majeurs, hein, pour relier Senlis à Paris.
Parallèlement, donc, on va y avoir le réseau d'eau entre le 39 rue de Paris et la rue de Saint-Yne, date de 1955. Donc, on va profiter de cette occasion pour le refaire. Or, le réseau d'eau sur la rue Juliette-Adam passe sous le trottoir. Donc, de toute façon, le trottoir va être complètement chamboulé. Et c'est la raison pour laquelle on vous propose, en fait, en travaux, de refaire les trottoirs de la rue Juliette-Adam, qui par ailleurs aujourd'hui au niveau cirque, c'est une vraie mosaïque là aussi d'enrober. Donc ça permettra de refaire cette partie-là. Tout ça refait, ce serait assez classique en fait, hein, refait en enrobé, peut-être avec un tout petit cheminement en pavé pour indiquer les entrées chartières, mais juste un cheminement, et tout le reste refait en enrobé, selon la configuration actuelle. Monsieur Leblanc, quels sont les compléments là-dessus?
On maintiendra la configuration actuelle, parce que nos trottoirs sont aujourd'hui déjà aux normes d'accessibilité. Et la seule petite discussion qu'on pourrait avoir, c'est par rapport au stationnement. Est-ce que l'on maintiendrait ou pas, ça c'est une discussion qu'il faut avoir en commission, est-ce qu'on maintiendrait ou pas le stationnement sur le trottoir côté inter. Voilà, ça c'est ce qui déciderait in fine le type de bordure qui serait utilisé pour cette route.
Il y a une question sur ce projet, sur ces projets. Donc, je vous propose de passer au vote. Je vous propose donc d'abord, est-ce qu'on peut d'approuver les projets de travaux, de solliciter les subventions du Conseil départemental de l'Oise, s'inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires à l'entretien de cet investissement, enfin d'en assurer la pérennité, de financer le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit aux articles 2313 et 315 du budget de l'exercice 2017. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Troisième point de l'ordre du jour, logement de l'école du centre. Alors actuellement, le logement de l'école du centre, à mon avis, le plus grand. C'est le plus grand en surface. Le plus grand. Oui, il va être plus grand. Donc c'est le logement qui est le plus près de toute façon de la mairie, qui donne d'ailleurs sur le parc de la mairie. Le locataire ayant quitté il y a quelque temps, nous avons profité de cette période pour y faire des travaux. Travaux qui se montrent approximativement, Francis. Les travaux se montent approximativement à quelle somme?
Il y a à peu près 5 500 euros d'électricité.
Oui.
Qui ont été faits entièrement. Plus le travail de peinture qui est fait par les ateliers.
En régie.
En régie. Et l'isolation de l'appartement qui est faite aussi. aussi en régie avec les ateliers municipaux. Et je crois qu'au niveau d'isolation, il y en a pour 1 000 euros.
Ouais, on était en sortant des 2 000 euros.
Donc on est à peu près à 8 000 euros au total.
8 000 euros de travaux qui ont été réalisés, plus les travaux
de peinture. Plus le temps passé.
Le temps passé. Ouais.
C'est un coût diminué.
Donc je rappelle que ce logement comprend un salon, une cuisine, deux chambres, un couloir, une salle de bain et un WC. Une superficie totale de 71 mètres carrés. Le loyer actuel révisable était de 290,50 €. Et nous proposons là de le louer à 500 euros hors charge. C'est un logement en centre-ville, donc il y a aussi quelques contraintes dues à l'école du centre, hein, la présence d'élèves, mais qui par ailleurs présente qui sera refait déjà, qui présente l'avantage d'être en centre-ville, dans un endroit calme.
Il y a beaucoup d'avantages. Il y a des contraintes et des avantages.
Je rappelle qu'il y a beaucoup de semaines de vacances scolaires.
Il y a un appartement qui a été rénové.
71 mètres carrés quand même.
Comment ? La contrainte, c'est de sortir les voitures le matin et en retard. C'est ça la contrainte principale.
Donc on propose effectivement une tarif de location de 500 euros hors charge. Questions sur ce sujet, commentaires ? Bon, il serait, a priori, on pourrait le mettre en location à partir du 1er février. Hein. C'est ça, monsieur Leblanc. Voilà. Qui est, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour. Donc, le tarif des caveaux du cimetière. Alors, Francis, je te laisse la parole pour expliquer ce que l'on a fait.
Oui, donc, au cimetière, il y avait des tombes qui étaient en très mauvais état. Donc, on avait décidé de pouvoir remettre un petit peu en ordre toutes ces tombes qui étaient à concession terminée.
Repris
de concession. Donc, on a voulu créer quelques caveaux pour pouvoir assainir un petit peu assainir. Et donc, on a fait quatre caveaux. Quatre caveaux. Deux places. On a fait quatre caveaux de deux places et on a fait des emplacements libres. C'est-à-dire que nettoyer pour pouvoir éventuellement le mettre en vente et avec la concession qui vient s'ajouter à la vente du caveau. Donc actuellement, on a fait quatre caveaux de deux places.
Donc,
Le prix, je peux le donner,
hein. Ah oui, bien sûr.
Donc le prix de chaque caveau était de 1465 euros. Donc la commune revendrait au même prix. Plus le prix de la
concession.
Mais de 30 ou 50 ans.
La logique de la... Oh, pardon, ton prix.
Oui, entre 30 et 50 ans.
J'ai pas entendu.
Il y a encore 30 et 50 ans.
Oui, en concession, oui, tout à fait.
Donc, ce qui permet aussi de. Il y avait quelques caveaux qui étaient en très mauvais état, surtout à l'entrée. Il y en avait un qui était dans un très mauvais état qui donnait un mauvais aspect.
Il y avait des risques.
Il y en a encore quelques-uns, quoi. On va essayer, au fur et à mesure, si ce qu'on a essayé de faire.
Il y a une procédure lourde, la reprise de concession, c'est de plusieurs années.
Oui.
On l'avait commencé, je pense.
Mais en fait, il n'y a pas vraiment la concession à reprise.
Mais à chaque fois, il y a une procédure spécifique. Hein.
Là, il y a combien, une dizaine qui se sont libérés, là, à peu près, au total. On a terminé là, il n'y a pas très longtemps.
Ouais. Enfin, la liste de ceux qui aujourd'hui sont libres, il y en a avec 4 pages. Donc,
65.
Comment
65.
Voilà, là, on va refaire petit à petit, sachant que la procédure administrative est très longue, comme vous l'avez souligné. Et le fait d'avoir mis des caveaux, ça a permis effectivement de retirer certaines choses qui n'étaient pas belles et qui présentaient des risques. Maintenant, la logique qui a été retenue pour le coup, parce que nous, quand on a fait intervenir les personnes, on en a eu pour un peu plus cher, tout simplement parce qu'il a d'abord fallu enlever ce qui était en place, hein, en termes de pierre et de tout ce qu'il y avait en place. Et la logique qu'on a prise, c'est de dire... On considère que tout a été nettoyé, on arrive sur un espace meuble de terre, et là, faites-nous un devis pour un caveau. Et le devis était de 1 465 €. Donc on propose de facturer ça, qui vient s'ajouter naturellement au prix de la concession. Non, on est...
Ah oui, faut qu'on le précise.
Alors c'est un prix, les 1 465 €, c'est le prix hors taxe. Hein.
Et ça comprend le nettoyage qui a été fait avant, n'est pas compté dedans.
Non, n'est pas compté dedans. Non. On en a eu pour un petit peu plus cher avec le nettoyage.
Je crois qu'il doit y avoir 300 €.
300 € de nettoyage. Pour 4 caveaux, c'est pas excessif.
TTC, hein.
Non,
c'est 1465, c'est TTC ?
Oui.
D'accord, alors c'est 1465 TTC.
Donc vient s'ajouter le prix de la
concession. Question sur la méthode, sur... Bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Tableau des effectifs, modification. Alors, sur la modification du tableau des effectifs, il y a un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a deux parties. Tout d'abord, une modification à compter du 1er décembre 2016 afin de permettre l'avancement de grade qui se traduira par la création d'un poste de chef de service de police municipale principale de première classe, 35/35, et la suppression d'un poste de chef de service de police municipale deuxième classe, 35/35. C'est l'aboutissement des 3 délibérations successives que nous avons votées. Ensuite, en fait, je rappelle que nous avions déjà modifié le tableau des effectifs par la création d'un poste d'adjoint technique deuxième classe chargé d'assurer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique pour un temps d'emploi de 20 heures sur 35. Donc je souhaiterais tout simplement revenir sur cette décision compte tenu d'une part des difficultés pour opérer un recrutement sur ce temps d'emploi incomplet et également on a mis les personnels de police, la situation des personnels de police, les mouvements actuels de personnel dans cette filière qui font qu'il y a une très grosse demande de policiers municipaux. Il n'est pas certain, parce que l'autre fois on avait discuté un peu de savoir si c'était un ASVP qu'on prenait ou un policier municipal, je me rappelle de l'intervention de M. Lamy sur le sujet. Donc on a regardé ça. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué de trouver un policier municipal, tout simplement parce qu'il y a une demande très très forte. À titre d'exemple, on recherche de l'ordre de 3000 policiers municipaux rien que dans la zone Île-de-France. Ça donne. Maintenant, rien n'est impossible. Donc je vous propose simplement, dans la délibération qui vient, d'une part de maintenir le poste d'adjoint technique avec fonction d'agent de surveillance de la voie publique 20 heures sur 35,
de créer un poste d'adjoint technique avec fonction d'agent de surveillance de la voie publique 35 heures sur 35 et créer un poste de gardien de police 35 heures sur 35. Trois postes seraient ouverts au tableau des effectifs afin de lancer le recrutement, mais un seul poste serait pourvu en fonction des candidats qui postuleront et de leur profil. Voilà un peu ce que je vous propose. Autrement dit, c'est de me laisser un peu de liberté pour recruter celui qui va rejoindre Monsieur Depp avant que celui-ci ne parte en retraite. Je rappelle que ça risque d'intervenir quand même assez rapidement, à peu près l'horizon peut-être probable d'un an. Et dans ce cas-là, il y aura aussi un autre recrutement à faire. Questions sur le sujet ?
Moi, je réitère simplement ma demande que prioritairement, on soit sur un poste de policier municipal qui est plus polyvalent et qui, compte tenu de son statut, pourra agir autrement qu'un ASVP qui doit se contenter en fait, d'agir sur la voie publique uniquement en verbalisant uniquement.
Donc là, on a les moyens de le faire avec cette modification du tableau des effectifs. Autre question ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité pour la modification du tableau des effectifs. Régime indemnitaire, filière de police municipale. Suite à l'avancement de grade du chef de service de police municipale au 1er décembre 2016, il est nécessaire de transposer le régime indemnitaire de l'agent. Pour cela, de créer le régime indemnitaire correspondant au grade de chef de service de police municipale principale de première classe. Il est donc proposé à l'Assemblée de créer, à compter du 1er décembre 2016, une indemnité spéciale mensuelle de fonction ISMF au profit des catégories de personnel suivantes, filière de police, chef de service de police municipale principale de première classe, le crédit ouvert dans le cadre duquel le maire effectue les attributions individuelles est calculé comme suit, traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension hors supplément familial fois taux de 30% pour un agent concerné, sachant que cette indemnité était déjà versée, simplement c'est le changement de grade qui fait qu'on le repasse ici. Et dernier point, il est proposé à l'Assemblée donc de verser l'indemnité mensuellement à l'agent concerné. Voilà. Questions sur ce sujet ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Septième point. Recensement de la population, rémunération des agents recenseurs. Donc là, je laisse la parole à Monsieur Patrick Stephen.
Le recensement va avoir lieu donc du 19 janvier au 18 février 2017 et nous avons lors d'un précédent conseil nommé des agents recenseurs, enfin le nombre d'agents recenseurs. En fait, l'INSEE a défini 9 secteurs pour le recensement. On a augmenté le nombre de secteurs, il a été remanié. Là où auparavant il y en avait 7. En 2012. Donc il est nécessaire de délibérer pour fixer la rémunération brute de l'agent recenseur, sachant que nous avons une dotation de l'État qui est de 7 979 euros au titre de la dotation pour le recensement. Pour information, en 2012, le coût pour la commune avait été de 9 306 euros. Donc moi je propose, parce que cette année en fait, lors du dernier recensement, il y avait la façon de recenser était un recensement papier, essentiellement. Donc l'agent recenseur avait de passer chez les gens, donnait les documents, venait les rechercher, c'était quand même un travail assez long en temps. Cette année c'est un petit peu différent, l'INSEE a mis en place un recensement, toujours en recensement papier, mais également pour, il l'espère pour une bonne partie de la population, en recensement internet. Donc il pourra y avoir un accès internet, ce qui évitera à l'agent recenseur de repasser chez les gens, il y aura simplement un code et un identifiant à donner aux gens, et les gens pourront se recenser automatiquement par internet, ce qui est beaucoup plus convivial et plus simple,
petit peu comme les impôts, hein. C'est assez. J'ai vu le logiciel, c'est pas compliqué à faire, enfin, ça va vite. Plutôt que de se retaper tout à la main sur un feuillet, c'est quand même plus intéressant. L'agent recenseur reçoit d'ailleurs. L'agent recenseur pour les feuillets papier repasse chez les gens chercher les documents. Pour les gens qui souhaitent le faire par internet, il reçoit sur son téléphone portable, donc il donne 2 ou 3 jours aux personnes pour pouvoir le faire, et il reçoit sur son portable le suivi que le recensement internet a bien été fait en fonction des éléments qu'il a donné à la personne. Voilà. Le calcul a été simple, hein. En fait, moi, lors du dernier recensement, ça avait coûté 5 en moyenne, j'ai fait la moyenne, parce qu'il y a des 2 demi-journées de formation qui sont faites, donc les 1000 journées de formation sont rémunérées. Et ça avait coûté en moyenne 5,19 € par feuillet, mais en sachant que c'était du recensement papier essentiellement. Donc moi je propose cette année de donner 5 € en moyenne, c'est-à-dire par foyer, et non plus par... parce qu'auparavant il y avait un calcul qui était fait par feuillet donné, plus au nombre d'habitants, enfin c'était assez complexe comme calcul. Moi je propose de rémunérer à hauteur de 5 € par foyer visité, et 25 € par séance de formation. Il y a 2 séances de formation. Donc ce qui ferait 5 € net pour l'agent recenseur, ce qui ferait un coût pour la commune de 6,14 € par foyer, charges comprises, et pour les séances de formation de 30,71 € pour charges comprises pour les séances de formation. Voilà. Ce qui reviendrait globalement, en coût global, en moyenne, par foyer, au même montant que ce qui avait été fait en 2012, avec un petit supplément pour les formations, qui sont passées de 20 à 25 €.
Et sachant qu'il y a un peu plus de foyers.
Alors, il y a un petit peu plus de foyers, mais à mon avis, il y aura un petit peu moins de temps à passer, parce que l'INSEE sollicite vraiment beaucoup le passage de recensement par Internet. La moyenne de ce qui s'est fait jusqu'à présent est de 35 à 40%. Donc, il faudrait bien qu'on arrive à peu près à ces eaux-là. Et je pense que ça doit être possible. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors, il restera à notre charge 6 491 €, donc qui seront à la charge du budget communal, qui viennent s'ajouter à ce qui est à la participation financière de l'État. Pour libeller délibération, finalement, on va plutôt la libeller en montant net. Tous les chiffres que vous ont été donnés là, mais on va la libeller en montant net. Donc 5 et 25. Mais les chiffres sont les mêmes. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour. Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Alors, l'article 45 de la loi 2005-102 sur du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifié par la loi 2015-988 du 5 août 2015, article 9, a institué une obligation d'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les communes de plus de 1000 habitants. Ce plan devait être établi avant le 23 décembre 2009. Le plan de mise en accessibilité, donc PAVE, est un document de planification des actions de mise en accessibilité sur le territoire de la commune. Il permet donc d'identifier les travaux spécifiques de mise en accessibilité, de les intégrer au projet en cours dans la commune. C'est un document de référence qui présente l'état des lieux, des propositions d'amélioration de l'accessibilité, le chiffrage, et ensuite, il n'y a pas de calendrier derrière. C'est quand on fait les travaux, en fait, sur la voirie, qu'on réalise et on met en accessibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de communes qui n'ont pas encore franchi le pas, ce qui est pourtant une obligation, ce qui fait qu'on franchit le pas, en fait, c'est que l'université de technologie, par le biais d'ateliers projets, et des étudiants qui sont en ces gestions gestion de l'urbanisme vont faire un atelier projet qui permettra de réaliser ce PAVE pour un coût qui est très faible, enfin, qui est plus faible que si on le confiait à une société d'études. Typiquement, là, ils vont nous demander 1,50€ par habitant, ce qui fait que le PAVE va nous revenir à 6 223 €. Les travaux débuteraient au 1er mars 2017, se termineraient fin juin 2017. Voilà, ils mettent 15 à 20 étudiants pour réaliser ça. Et d'ailleurs, à condition bien sûr que chaque commune donne son accord, mais ça a l'air assez bien parti, ils vont le réaliser sur Verberie et aussi sur les 5 autres communes de la communauté de communes de la Basse-Automne. Voilà, donc pour faire ça, on passe par le biais d'une filiale de l'UTC qui s'appelle UTIM. Voilà, les autres points, c'est qu'effectivement, il y a 15 à 20 étudiants du département GSU, génie des systèmes urbains. Il y a 3 encadrants, donc qui sont des professionnels de cette affaire-là. 4 mois de travail, donc 15 semaines, avec le calendrier que je vous ai donné. Ils seront tous les mercredis, sur toute la journée, sur le terrain. Et après, ils rédigent le reste dans les longues soirées qu'il leur reste à occuper. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ce PAVE.
Vous avez le nom des encadrés ?
Oui. Oui. Nathalie Mouline, Valérie Ledieu et Karine Henriot. Donc, le premier est géographe, la deuxième est architecte et la troisième est géographe urbaniste. Voilà.
J'ai eu recours à ce genre de prestations sur des projets sur la CCPOH.
Oui.
On a eu pour le coup un très bon résultat.
Oui, je suis confiant.
C'était lié à la question, plus à la question transport qu'autre chose, mais voilà, ils avaient très bien travaillé, donc c'était plutôt positif.
Donc on peut être plutôt serein sur cette affaire-là.
Hein.
Puis j'ai eu Madame Henri au téléphone, ça m'a paru effectivement très sérieux leur affaire. On passe au vote. Plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Désaffectation d'un local scolaire. Je laisse donc la parole à Monsieur Laurent Baumler, adjoint aux affaires scolaires.
Merci. Non, mais juste, je laisse Arnaud donc installer le matériel parce que je vais vous projeter donc un petit tableau en fait récapitulatif sur les effectifs. Je crois que c'est effectif, oui. Ça doit être le premier. Voilà, c'est ça. Alors, donc, j'ai refait juste un point pour qu'on ait vraiment tous les éléments. Donc, rappelez-vous, je vous avais parlé que les effectifs étaient en baisse. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, vous avez la deuxième, l'année de rentrée, hein, la première colonne. Vous avez les naissances, donc qui sont les déclarations de naissance en mairie de Verberie. Vous avez les inscriptions réelles, donc là c'est vraiment les enfants qui sont rentrés en maternelle. Et puis vous avez évidemment la différence. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tableau-là ? On voit que dans la colonne naissance, évidemment, les chiffres sont Ben, en diminution, en fait, hein, donc ça c'est un constat réel. Pour l'instant, on voit que l'année n'est pas terminée, c'est le dernier chiffre, 52, puisqu'il reste encore quelques jours et que nous aurons peut-être encore des heureux événements d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, nous en sommes à 52 naissances déclarées, donc à ce matin. Donc voilà, on voit que ben, ça continue de diminuer un petit peu. Et puis on constate un autre phénomène aussi, c'est que la différence entre le fichier que l'on a 3 ans après, puisque les enfants ont 3 ans au moment où ils rentrent à l'école maternelle, généralement, dans les cas où je vous ai cités, on peut remonter plus loin, mais enfin ça n'aurait pas de sens, on voit qu'on a beaucoup moins d'inscriptions réelles du fichier que l'inverse. C'est-à-dire que dans les deux fois où on a eu un peu plus d'inscriptions réelles que par rapport au fichier déclaratif, on n'est qu'à plus 3, et dans les autres, quand on est en moins, on est vraiment dans le moins. Donc ce qui explique qu'on a eu une fermeture de classe donc en maternelle à cette rentrée. Je vous ai remis donc les chiffres officiels, donc ils viennent du fichier bas élèves, hein, qui est là, le fichier de l'éducation nationale. C'est là-dessus qu'ils se basent pour faire les ouvertures et les fermetures de classe. Donc à aujourd'hui, l'école maternelle des remparts, donc EMR, hein, vous avez 163 enfants. Il y a donc 6 classes maintenant, donc ça nous fait une moyenne par classe de 27 enfants, un peu plus de 27 enfants. Vous avez l'école primaire des remparts où il y a 125 enfants, donc avec 5 classes, ça vous fait une moyenne de 25 enfants par classe. Et puis vous avez l'école primaire du centre qui, eux, sont à 120, et donc ça nous fait une moyenne de 24 enfants par classe. Juste pour vous situer un petit peu, il y aura forcément, à un moment donné, je vous l'ai mis en italique un peu plus bas, mais c'est important de l'avoir en mémoire quand même, à la rentrée 2019 maximum, ce sera peut-être même 2018-2019, on verra, enfin bref, il y aura forcément une répercussion de la fermeture de classe que nous avons eue cette année sur les deux écoles primaires. Il faut savoir que le seuil critique, donc là où vous avez marqué 125 et 120, le seuil critique c'est 110, puisque ça vous fait une moyenne de 22 enfants par classe, et là l'inspection peut décider de fermer une classe ou pas. Je rappelle que la municipalité n'a pas du tout la main sur les ouvertures et les fermetures, hein, c'est une décision d'éducation nationale, qui prend en compte plusieurs critères, les budgets qui sont donnés, alloués, voilà, la carte scolaire, enfin, etc., etc. Donc, vous avez juste, pareil, pour info, je vous ai mis, donc ça nous fait pour cette année, en tout cas, pour l'instant, 408 enfants. Et vous avez pour info, 2011, on était à 440, 2014, 420, et aujourd'hui, 408. Donc, on voit qu'il y a vraiment une baisse. Hein. Donc, voilà. Et il faut quand même aussi noter un autre point, c'est que on a quand même 19 enfants qui ne sont pas, sur les 408, qui ne sont pas des enfants de la commune. Ça fait quand même quasiment une classe. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a plusieurs phénomènes à ça. C'est que soit des cas exceptionnels où on donne l'accord pour qu'ils soient scolarisés chez nous. Et puis, il y a aussi les parents qui déménagent, ils partent, même s'ils ont l'obligation normalement de nous prévenir. Ils ne le font pas toujours. Et puis, on n'est pas derrière chaque parent pour savoir s'ils habitent toujours sur le territoire. Mais il ne faut pas l'oublier. D'accord. Donc voilà sur les effectifs. Alors où en est le dossier? Ben on a donc eu l'accord, l'avis pardon, favorable du préfet pour la désaffectation de ce local. Hein. Il faut donc maintenant passer à la phase, travaux, c'est des menus travaux hein, qu'il y a à réaliser. Il y a eu plusieurs échanges avec la directrice de l'école et on en a parlé aussi au dernier conseil d'école avec les parents élus. Certains points ont été soulevés et c'était ceux qui ressortaient des rencontres qu'on avait fait avec la directrice et puis l'enseignante concernée qui est la classe qui est accolée, voilà, mitoyenne avec cette salle du futur RAM. Alors les petits travaux, donc c'est donc vider tout ce qui est produit d'entretien, évidemment vider les meubles, donc ça l'école a déjà commencé à se répartir les meubles, il en restera quelques-uns qui seront stockés peut-être aux ateliers, enfin voilà, vous sortirez les porte-manteaux parce que ça sert à une des collègues de l'autre côté de la classe, enfin voilà, on en est là. Il y a des points un peu plus importants qui sont les poussettes à régler, c'est-à-dire qu'il faut... Ce serait bien que les poussettes restent dehors. Et puis, un local à poubelle à trouver. Donc voilà, là, il faut qu'on travaille là-dessus, mais on est un peu plus... On est dans le détail, on va dire. Hein. Donc voilà. Que dire d'autre? J'ai juste une modification, peut-être, sur le document que va vous lire Michel. C'est qu'on avait indiqué l'avis favorable de la directrice de l'école maternelle, ce qui n'est pas le cas. Ça n'est pas un avis, puisqu'elle ne donne pas d'avis. L'avis, c'est l'inspecteur académique qui le donne et qui l'envoie donc au préfet, mais la directrice ne donne pas d'avis. Donc c'était une erreur qui s'est glissée. C'est une opinion. Enfin oui, elle n'a pas à donner d'avis, puisque évidemment elle attend, elle, de voir ce que ça va donner, mais c'est une décision municipale, et c'est surtout le préfet, via l'inspecteur académique, qui donne son avis.
Voilà. Elle a nécessairement dialogué avec l'inspecteur.
Oui, tout à fait.
Avec l'inspecteur.
Il lui a demandé, évidemment, c'est normal, ses inquiétudes, ses points favorables, et puis ce qui a donné que le préfet a donné l'avis favorable il y a quelques jours. Voilà.
Question ? Oui.
La désaffection d'un local scolaire, élémentaire ou préélémentaire, est-ce qu'on ne doit pas prendre l'avis de là, puisque l'agglomération de la région Compiègne a la compétence des constructions des écoles élémentaires et préélémentaires ? Vous voyez le problème, c'est-à-dire que s'il y a une désaffection d'une classe, après, s'il y a une augmentation de la population, vous avez reconstruction d'une école.
Non, mais j'ai bien suivi.
Là, ce n'est plus la commune, mais puisque c'est de la compétence de l'agglomération.
Alors,
est-ce que... Vous voyez, est-ce qu'on déclasse et après on est obligé de reconstruire, vous voyez le problème.
Alors, deux choses. Tout d'abord, elle est déclassée, et c'est précisé dans le document du préfet, elle est déclassée pour devenir la salle du RAM. C'est écrit typiquement dans l'accord que nous a fait le préfet. Ensuite, ce sont des discussions qu'on a eues, notamment avec l'agglomération de la région de Compiègne, puisqu'on en a discuté. Donc ils savent très bien qu'on veut relocaliser le RAM à cet endroit-là. Et le troisième élément, c'est que la question qui est posée, effectivement, dans 10 jours, nous sommes dans l'arc. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Donc de toute façon, là, aujourd'hui, factuellement, on n'a pas à les consulter de manière officielle. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque part, voilà, c'est un sujet qui a été abordé devant eux, donc ils sont au courant.
Et puis, ils ont peut-être pas fait le rapport. Hein.
Puis ensuite, l'autre point, c'est que on voit bien que en ce moment, on a quand même des diminutions régulières d'enfants.
Et je rajoute qu'en sachant que je pense que nous irons à un moment donné vers la fermeture d'une primaire, ce qui fait que d'ici à ce qu'on réouvre, d'une classe, excusez-moi, une classe primaire, d'ici à ce qu'on réouvre, il se passera plusieurs étapes.
Autre question ? Bien. Je vous propose de passer au vote. Donc, sachant qu'on retire, vu l'avis favorable de la directrice de l'école maternelle, puisque, effectivement, c'est l'inspecteur qui a donné son avis, mais qui, une fois de plus, travaille évidemment en liaison étroite avec les directrices. Passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Sujet suivant, impasse du Clos des Moines, transfert de propriété à la commune. Donc, il y a en fait deux parcelles sur cette impasse. Il y a une parcelle qui appartient aujourd'hui à la SCI Pommier Grand-Mère. Et une parcelle qui appartient à monsieur et madame Jacques Comte, propriétaire de la parcelle cadastrée AE356, la première étant la AE352. Voilà, donc ces parcelles-là constituent en fait le chemin d'accès qui permet d'accéder aux riverains de l'impasse du Clos des Moines. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est un transfert de ces parcelles vers la commune, sachant qu'en ce qui concerne les réseaux, et le CIVOM a effectivement donné un avis favorable après avoir
pris attache avec les spécialistes techniques de toutes ces affaires-là. Il y avait au début quelques problèmes, mais qui ont été réglés. Il y a aujourd'hui une pompe de relevage qu'il faudra entretenir, puisqu'elle permet au réseau de fonctionner. Voilà, c'est une quelque part c'est une action qui avait été entamée avant l'élection, mais là il y a eu des travaux sur les réseaux depuis. Je crois que c'était depuis hein, les travaux sur les réseaux.
La demande remonte au 19 décembre 2013 et ensuite ça a été le dossier a été instruit. Il y a eu un contrôle le 30 janvier 2014, lequel contrôle a fait apparaître des réparations à prévoir sur les tronçons RB4 vers RB3. Je vous passe les détails. Monsieur Pont s'était engagé donc à faire des travaux, mais nous n'avons pas eu de confirmation de ces travaux donc, depuis cette date. Et j'ai, lorsque la commune a de nouveau sollicité l'état de l'avancement de ce dossier, j'ai repris contact avec la Lyonnaise qui a fait une UTV, qui a fait un nouveau contrôle. Et, qui se sont avérés, donc le local control s'est avéré positif, qui a confirmé que les travaux de mise aux normes ont été effectués et que rien ne s'opposait donc dorénavant à la reprise des réseaux eau et assainissement de cette impasse, sous réserve bien sûr que la commune transfère la propriété des parcelles en question dans le domaine public communal.
D'accord. Alors, derrière ça, bon, aujourd'hui, la voirie, l'état supérieur de la voirie est en bon état. Il y a une toute petite partie espace vert, mais qu'on va de toute façon simplifier, parce que nous, il faut que ça demande un minimum de travail. On a quand même des équipes très limitées sur ces affaires-là. Donc, on ne peut pas partir sur des choses très compliquées, mais je crois que ça ne choquera personne. Derrière ça... Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement d'accepter, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la reprise de la voie et des réseaux électriques basse tension, téléphonique, éclairage public, le transfert de propriété des parcelles cadastrées AE352 et AE356, lieu dit Clos des Moines, appartenant respectivement à la SCI Pommier Grand-Mère et à Monsieur et Madame Jacques Comte à la commune, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte notarié à venir en l'étude de Maître Lefranc, notaire à Berberie, le règlement des frais de notaire étant à la charge des demandeurs, de procéder au classement de l'impasse du Clos des Moines dans le domaine public de la commune, selon l'article L141-3 du Code de la voirie routière, la voirie concernée devenant une voirie communale. Bien, question. Commentaire. Nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point suivant, vidéoprotection, convention avec le conseil départemental. Alors il s'agit en fait d'une régularisation. Ça concerne la caméra qui est installée sur le chemin d'accès au collège. Et donc à ce titre-là, nous devons avoir une convention avec le collège, puisque la caméra est fixée sur un des bâtiments du collège et bénéficie de l'alimentation électrique du collège. Donc, de toute façon, la caméra est déjà installée. Le conseil départemental avait donné son avis informel. Allez-y. Il nous faut un peu de temps pour rédiger la convention parce que juridiquement, on doit tout border, etc. Ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, je vous propose de m'autoriser à signer cette convention entre guillemets de régularisation pour clore l'affaire. Voilà. Ça a été annoncé aux parents d'élèves d'ailleurs hein, lors du conseil, on dit pas conseil d'école, on dit conseil d'administration. Voilà. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 12, enquête publique, activité exercée par la société Cornec. Donc il s'agit d'un dossier qui a été déposé pour régulariser la situation administrative de la société Cornec, qui procède à des traitements de déchets sur ce site de Longueuil-Sainte-Marie.
Elle est donc située juste sur les bords de l'Oise, donc c'est-à-dire à proximité du territoire de Verberie, pas loin du pont de chemin de fer, même à proximité. Hein? Voilà, pour ceux qui connaissent, il y a l'usine d'engrais qui est tout à côté et qui la jouxte. Donc on est dans cet endroit-là. Aujourd'hui, nous avons étudié le dossier, en particulier l'adjoint à l'urbanisme. Et je propose, nous proposons l'avis que tu peux peut-être le bon, je vais le lire. Alors, l'avis que nous proposons est le suivant. Nous proposons d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploiter de la société Cornex sous réserve des remarques et demandes suivantes. Contrairement à ce qui est indiqué page 8 de la partie 1 du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, le captage d'alimentation en eau potable le plus proche ne se situe pas à 2,5 km au nord du site, mais à 1,7 km au sud-est du site. Il s'agit du point de captage de Verberie. Et étrangement, je ne sais pas pourquoi, dans le dossier d'impact, il n'y a que celui qui a été répertorié, c'est celui de la Croix-Saint-Ouen. Bon, ça semble pas avoir une incidence extraordinaire, mais donc le conseil municipal demande que le captage de Verberie soit pris en compte dans l'étude d'impact, ce qui n'est pas le cas. Voilà, ça c'est le premier point. Le second point, il est indiqué page 9 de la partie 1 du dossier de demande d'autorisation d'exploiter que le trafic routier lié aux activités du site représentera 3% du trafic poids lourd sur l'ARD26. Le conseil municipal demande que ces poids lourds ne traversent pas le pont de l'Oise de Port-Salut et n'entre donc pas dans le centre-ville de Verberie. Bon. Comment ?
Vœux pieux.
Ouais. Toujours demandé.
Mais ce serait une erreur de ne pas le demander, je pense. Il est indiqué, page 15 de la partie 2 du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, que les broyats inertes 0,15 mm comportent 90% de poussière plastique qui sont déposées dans un casier non couvert. Le conseil municipal demande que ce casier soit bâché en dehors des périodes d'activité. Voilà. Et dernier point, le conseil municipal demande à être informé des suites qui seront données à ces remarques. Voilà. Questions sur ce dossier, commentaires?
Sur les poids lourds, on revient sur les poids lourds. C'est vrai que bon, on peut dire que c'est un vœu pieux, certes, mais ça marche quand même dans les cas des betteraves, notamment. On voit quand même l'amélioration.
Je suis pas sûr que ce soit celle-là, parce qu'ils sont trois sociétés en fait. Possible, mais. Oui, si, c'est Cornec où il y avait eu un incendie. Oui, c'est Cornec, vous avez raison. Parce qu'il y en a deux, en fait, hein, qui traitent, l'autre traite plus ou moins des ferrailles, là. Et puis il y a l'usine d'engrais à côté. C'est Cornec où il y avait eu l'incendie.
C'est quand même un secteur sensible.
Oui,
c'est bruyant. L'usine d'engrais. Bruyant, non, je pense pas particulièrement.
Non, non, mais c'est sensible en danger, l'usine d'engrais. Oui, on a déjà mené au
niveau du bruyant. Alors, pour revenir sur les poids lourds, quand même, il y a plusieurs choses. Premièrement, on a quand même une grosse activité poids lourd qui est due à la campagne de betteraves. On a donc mené des discussions très serrées avec la sucrerie Tereos. Sachant qu'ils ont mis en place un protocole particulier pour Verberie, comme je pense j'ai déjà dû le dire, et notamment aujourd'hui les transporteurs peuvent avoir en raison de leur mode de circulation dans Verberie un bonus malus sur leur chiffre d'affaires. Donc on est en contact avec Tereos et effectivement ils sont vigilants. Je peux même vous dire que l'autre jour, à la suite du comportement d'un chauffeur routier, il a été mis à pied directement. Donc aujourd'hui, la société est quand même très sensible à ces affaires-là. Et d'ailleurs, même sans en parler, des personnes qui d'habitude sont sous les feux, en tout cas sont directement concernées par ces affaires-là, me disent qu'effectivement, il y a eu un véritable progrès. Le deuxième point, c'est le dialogue que nous avons eu avec le SMVO, donc qui occupe avec ses 12 camions aujourd'hui un endroit près de la gare et qui va donc les transférer anciennement Flamme Espace. et qui réalise d'ailleurs des travaux qui sont bien entamés et qui vont se terminer par les travaux paysagers, qui amélioreront notre entrée de ville, eh bien, ils se sont engagés à ce que les camions ne circulent plus de bonne heure le matin ni tard le soir dans Verberie. Ils y passent, par contre, pendant la période de milieu de la journée pour des raisons d'efficacité et de besoin. Mais là aussi, donc, on a eu un gain de ce côté-là. Maintenant, voilà, on avance et il y a des progrès. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tout, mais on est vigilant à cette affaire-là. Question encore ? On passe au vote. Qui est contre cet avis ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Point suivant, plan local d'urbanisme de Rivecourt. Alors c'est l'arrêté de projet et il demande l'avis de la commune sur le PLU de Rivecourt. Il a été parcouru par l'adjoint à l'urbanisme. René, qu'est-ce que tu en dis ?
Rien, il n'y a rien qui a pas été abouri, il n'y a même pas de réserve à mettre. C'est, je pense que tout est correct et c'est bon pour nous, c'est bon pour reprocher à leur pays.
Voilà, donc je vous propose d'émettre un avis.
Oui. Est-ce que le PLU de Rivecourt parle des problèmes qu'ils ont avec les
gens du voyage
qui sont installés en zone zone naturelle?
Ils ont un programme pour essayer de les faire partir. Et là, c'est un gros problème.
Qui dure depuis longtemps.
Et qui dure depuis très longtemps.
Mais dans le PLU, on peut... Enfin, ils ont des terrains naturels en zone inondable, donc il devrait y avoir personne. Voilà, point final.
C'est ce qu'ils essaient.
La préfecture a demandé de régulariser ces terrains, de les transformer en jardin spécifique pour les... Pour les gens du voyage. Hein, c'est ce que l'État aujourd'hui s'attend. Hein. Aujourd'hui, on nous demandait il y a quelques années que sur la route de pont, là où il y a quelques caravanes, qu'on régularise ces terrains. Hein, et que ces terrains soient régularisés par rapport aux gens du voyage. Bon, alors qu'ils sont totalement interdits. Et sur Rivecourt, c'est pareil. Hein. Et il y a eu, ils ont fait des recours, et la mairie de Béthisy aussi a fait des recours, etc., qui n'aboutissent jamais, et le préfet et l'État, ne prenant pas parti dans cette affaire, et sans tomber, hein, pour dire que...
En tout cas, Madame le maire de Rivecourt, elle continue à se battre, parce qu'elle demande simplement le respect de la loi, finalement. C'est pour vous dire qu'elle ne les a pas régularisés en jardin dans son PLU.
C'est déjà ça.
C'est en zone naturelle. Elle fait, voilà, hein,
Elle les a même repassés, parce que je crois qu'ils n'étaient pas considérés en zone naturelle. Il y a des arbres dans la zone naturelle.
On les met là au bout de la rue.
En tout cas, elle est très vaillante.
Ah oui.
Donc, je propose d'émettre un avis favorable sur le PLU de Rivecourt. Un peu de silence, s'il vous plaît. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable adopté à l'unanimité.
Non, il y a le rapport annuel sur le prix.
Alors, le rapport annuel, on a dit que...
Il y a toutes les questions diverses.
Il reste les questions diverses. Donc, Monsieur Lamy a posé deux questions diverses. Bon, celle qui est relative à tout ce qui est fusion, je pense qu'on y a amplement répondu. On a donné tous les éléments. Ensuite, pourrait-on avoir un point de situation clair quant à la question médicale sur notre commune ? Départ en retraite de médecins, remplacement, etc. Alors, aujourd'hui, ce que je sais de manière certaine, c'est qu'il va y avoir un départ. Donc, le docteur Mazingard, maintenant, je crois qu'il l'a dit, je peux en parler. On me parle très fortement d'un deuxième départ. Hein, donc une de ses collègues. Voilà quelle est la situation actuelle, sachant que d'un autre point de vue, évidemment, nos médecins quel qu'il soit, commence à avoir un certain âge, hein, et donc se rapproche progressivement de la retraite. Hein, ils sont pas tous, mais un certain nombre sont dans la soixantaine. Les autres doivent être dans la cinquantaine bien... Non, ben c'est bien ce que je dis.
Ils sont tous dans la soixantaine.
Pas tous. Madame Lejeune n'est pas dans la... A priori, elle n'est pas dans la soixantaine.
Non. Mais Lequette aussi. Mais le docteur Lequette doit partir à Saint-Martin-en-Beauvoir. Hein? Le docteur Mazingarbe s'en va, il ne reste plus que le docteur Lejeune pour lequel il y a un problème de local. C'est vrai que ça le rend. Les deux bourguignons étant dans la soixantaine vont aussi s'arrêter. C'est une problématique. Bon, Bétizy avait cette problématique, a décidé de faire une maison illégale. C'est une question. Hein, c'est une question. Aujourd'hui, si rien n'est fait, de toute façon, je crains qu'il y ait une difficulté pour le recrutement des médecins qui aujourd'hui devient extrêmement difficile.
Alors, de toute façon.
En dehors de la politique gouvernementale. Hein,
en dehors, oui et non.
Oui.
Hein. Aujourd'hui, on a clairement, de toute façon. On a clairement une pénurie qui est organisée. Hein. Après, les organisateurs de la pénurie, je vais pas me plonger dans l'affaire, mais c'est une pénurie organisée. Derrière ça, il manque des médecins et pas qu'à Berbery, il en manque partout, en fait. Hein.
Sauf à Nice.
Et dans Savoie, a priori, où là, il y a plutôt des records d'affluence. Donc ça pose quand même des problèmes qui sont largement hors du champ d'action du maire et des élus communaux que nous sommes. Derrière, l'affaire des maisons médicales, c'est parfois une catastrophe. Hein, parce que les gens partent et les coûts restent au niveau des communes. À Crépy, ça se passe pas très bien, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, des questions ont été posées lors de l'Assemblée Générale de l'Union des maires de l'Oise par le maire de Crépy. Les réponses de l'Agence Régionale de Santé étaient quand même pas extraordinaires, c'est là aussi. Il y a des demandes partout, il y a de l'affichage partout. Des gens qui demandent des médecins, mais voilà, aujourd'hui, du point de vue réglementaire, c'est comme ça, il y a une très très grande liberté. En nombre, aujourd'hui, que je sache, il y a plutôt un peu plus de médecins qu'il n'y en avait par le passé, mais apparemment pas suffisamment. On voit aussi dans notre système, puisqu'on le voyait il y a deux jours, des gens qui partent à l'étranger pour revenir médecins, des Français, et qui reviennent comme médecins en France. Donc c'est pour dire qu'on est quand même dans une situation absolument extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Évidemment, faciliter la mise en relation. Essayer de faciliter pour ceux qui le trouvent, le fait qu'ils puissent trouver des locaux. Typiquement, dans ce cadre-là, d'une part, je suis en discussion avec Picardie Habitat, c'est déjà une chose, qui a a priori des solutions, ou au moins une solution à proposer. Nous aurons également la résidence intergénérationnelle, et un des éléments, c'était bien qu'au rez-de-chaussée, on pouvait y mettre des professionnels de santé. Donc ça aussi, ça faisait partie de la démarche et des leviers d'action que nous avons activés ici. Maintenant, on pourrait...
Je peux vous répondre. Hein. Aujourd'hui, l'installation du médecin dans des zones d'habitat loyer modéré, c'est impossible. Hein. Tout le monde est parti. Sur Plateau-Clair, il n'y a plus personne. Dans les zones, vous n'installerez pas un cabinet médical dans une zone d'habitat loyer modéré. Parce que les patients qui viennent de l'extérieur n'iront pas dans certains... c'est sans jugement, hein, c'est un constat. Donc, sur les propositions de locaux en dessous des zones d'habitat loyer modéré, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Moi, je connais encore un dentiste qui est parti sur Creil. Ils partent les uns derrière les autres.
Bah, à Creil, on n'est pas à Creil.
Le comparatif est quand même très...
Il y a certains, au niveau de Compiègne, c'est pareil. Hein, on est dans le même domaine, au niveau de 360, on est dans le même domaine. Moi, je dis, c'est un
faut se comparer avec des villes quand même équivalentes.
À Choisy-au-Bac, c'est l'inverse.
Ça passe bien. Un ophtalmo, il y a une...
Moi, je vois au Meux, ça marche très bien.
Ils se bordent les uns derrière les autres.
Ce qui avait été fait par la commune du Meux.
Il y en a qui partent là.
Il y en a qui partent les uns derrière les autres. Il y en a qui sont revenus.
Au départ,
il y a eu un des mouvements. Bon, il y a la chapelle en Serval qui marche très bien.
Oui.
Bon,
faut voir ce que ça coûte,
mais c'est quand même...
Est-ce que la population est prête à payer dans ses impôts pour ce genre de service?
C'est la question.
La deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que vous ne croyez pas que ça peut revenir plus cher à la population d'avoir à se déplacer ou à chercher un peu plus pour avoir un médecin?
Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que de toute façon, le problème ne peut pas se régler à l'échelle communale. Chacun ne peut pas installer sa maison médicale. Ça sera une catastrophe. Alors aujourd'hui, on est plutôt parti sur des réflexions communautaires, à l'échelon, puisqu'on en parlait de l'agglomération. Et c'est plutôt à cet échelon-là, peut-être, qu'il faut trouver des solutions.
Excusez-moi, mais à l'échelon de l'aglo, ça fait quand même moins Compiègne.
Mais j'ai pas dit que ça voulait dire que les choses se faisaient uniquement sur Compiègne. C'est pas ça du tout. Maintenant, vous conviendrez que le principe de chaque commune construit une maison médicale, ça ne peut pas marcher.
Non, mais j'entends bien, mais disons que je n'avais pas construit une maison médicale à Ruisse, ni à Robertval, ni à Villeneuve. Hein, il faut qu'il y ait déjà un centre ici avec quand même 8 médecins. Bon, d'ici quelques temps, il en restera peut-être 2, voire 3. Bon, c'est quand même problématique.
Ah, mais que ce soit problématique, je souscris. Mais évidemment. Ceci dit, après, il s'agit de savoir comment on répartit les financements. L'ARS, aujourd'hui, propose certaines choses, mais elle est plutôt en train d'essayer de se retirer. C'était l'intervention à l'Union des maires de l'Oise, hein, où il a nié se retirer, mais en fait, dans les faits, c'était pas tout à fait ça. Après, il faut sans doute le gérer, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qu'il faut gérer au niveau de plusieurs communes, mais pas au niveau d'une seule commune. Donc qu'on doive réfléchir sur le sujet, j'y souscris pleinement. Que aujourd'hui ce soit un vrai problème, j'y souscris pleinement. Ceci dit, à un moment donné, si on est dans un cadre de pénurie, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, on n'est globalement pas dans un cadre de pénurie, puisque à Nice, enfin dans la région, sur la Côte d'Azur, vous avez des spécialistes qui prennent des clients comme médecins généralistes pour continuer à vivre. Donc là-bas, on n'est pas du tout dans la pénurie, on est au contraire dans la surabondance. On a donc un vrai problème, d'équilibre. Et aujourd'hui, s'il y a la pénurie dans certaines zones, et si on se met, on a évidemment un problème, mais c'est la loi de l'offre et la demande après. Ça va être qui offre plus pour avoir.
Mais je suis d'accord, il faut qu'il y ait une incitation à venir. Or aujourd'hui, il est vrai que l'incitation dans l'Oise, c'est vrai que...
Alors le conseil départemental dit qu'il va le faire quelque chose, donc là aussi c'est peut-être ce qui... Voilà, mais j'écoute, hein, là. J'ai entendu. Mais il n'y a pas de décision factuelle.
Bon, néanmoins, à mon sens, c'est quand même une question qu'on doit se poser dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Je pense qu'une commune comme Verdury, avec son nombre d'habitants, ne peut pas se permettre de se retrouver demain avec deux médecins. Donc il y a des réflexions.
réflexion de fond à avoir là-dessus.
Ah, mais...
Et d'autant qu'à côté, on a aussi un patrimoine avec l'idée de vendre certaines choses. Et donc la question, avant que ce patrimoine soit vendu, c'était de, justement de s'intéresser à son avenir, et notamment peut-être en réponse à ce genre de...
Après, il faudra trouver les fonds.
Et ce problème, c'est pas tellement de faire transfert, de vous avoir un...
Mais
c'est le problème de trouver les médecins.
Oui, il faut trouver les
parce que si on construit si quelque chose et qu'on a que deux médecins à mettre dedans, le problème, il sera le même. On sait très bien qu'il n'y en a plus de médecins, donc c'est pas parce qu'on leur mettra des locaux qu'on est en ordre.
Ils doivent être une douzaine maintenant. Mais la chapelle en Serval, c'est petit, hein.
C'est pas pour ça qu'on les fera. S'ils
sont remplaçants.
Si des remplaçants, il y en a plein. Et alors là, le problème des remplacements en médecine, c'est pas le problème.
Bah, là, ils s'en vont, personne ne veut
pas. Ah non, mais des remplaçants, je vous parliez des remplacements.
Les
remplaçants, ils veulent tous être remplaçants.
Ils ne trouvent pas de successeur.
C'est pour ça que la discussion, moi, me paraît un peu, enfin, parfois un peu décalée, je m'excuse de dire ça, mais je trouve que certains médecins prennent des décisions à titre personnel et c'est à la collectivité locale d'en payer les conséquences. Moi, personnellement, je trouve que c'est... Je trouve que c'est quand même fort. Et d'autre part, moi, personnellement, j'ai pris contact avec un médecin pour lui proposer, qui risque de partir, de lui proposer d'aller visiter un local que l'on avait en vente sur la commune, ce qui me paraissait déjà une première démarche. Et je crois que nous n'avons pas eu de suite. Donc voilà, après, il faut...
Oui, mais est-ce que le local était adapté
Bah, il faut d'abord aller le visiter, je pense.
De toute façon, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on avait des médecins et qui se sont engagés visiblement sur un projet, parce que derrière, on n'a pas su leur proposer non plus quelque chose. Donc,
non, je suis pas d'accord.
Non,
je suis pas d'accord.
Mais déjà de garder les nôtres, c'est des
renversants. Non, je suis pas.
Faut pas être d'accord là.
C'est aussi pour ouvrir des boucheries, des charcuteries, des coiffeurs, des marchands de chaussures, des marchands de fringues.
Je crois qu'il y a une très grosse différence.
Monsieur l'ami, la discussion qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas d'aujourd'hui cette discussion-là.
Non.
Elle remonte de nombreuses années. Et la question que vous posez aujourd'hui, vous auriez peut-être pu la poser il y a quelques années aussi.
Il y a au moins
5 ans qu'on entend parler qu'il n'y a plus de médecins.
C'est
plus
d'aujourd'hui.
Il y a des tranches d'âge.
Il y a des médecins jusqu'à la dernière.
Mais
c'est maintenant que la question se pose.
Là, aujourd'hui, il fallait anticiper les choses, justement. Non, il fallait anticiper les choses. C'est pas aujourd'hui quand ils s'en vont qu'on...
Il est temps de les anticiper.
Ah ben non. Parce que c'est pas quand ils s'en vont qu'on va dire, ah ben oui, il faudrait voir quelque chose. À mon avis, il est trop tard aujourd'hui,
son parti. Vous expliquerez ça à la population, c'est tout.
Mais Monsieur Floury, dans la même discussion, il y a quelques mois, je crois que vous étiez complètement contre les maisons médicales.
J'ai du mal à comprendre.
Ça change. Vous aviez pris l'exemple à l'époque, je crois que c'était de Crépy qui fonctionnait, et vous disiez que c'était une erreur de faire ça à l'époque.
C'est certainement moi qui ai mal compris alors.
Mais
aujourd'hui, c'est une des seules solutions pour pouvoir pallier dans les petites villes et dans la ruralité à essayer de garder des médecins. Bon, maintenant, c'est aussi à la collectivité de prendre en compte ses problèmes. Bah oui, je me dis que les problèmes de santé, c'est à la collectivité aussi de s'interroger.
Ils vont passer les prêtres au soleil.
On va professionnaliser ça.
Voilà, c'est ça. C'est un sujet.
Ça va plus être des professions libérales, ça va être des professions payées par les communes. Voilà. Il faut leur apporter leur outil de travail. Quand un boulanger s'en va, on lui finance pas son fourni, je suis désolé. Bah, c'est la même chose pour des médecins.
C'est
ce que vous demandez.
De les louer aux médecins. On n'a pas demandé la gratuité. Les médecins n'ont jamais demandé
c'est
la même chose pour des...
Dans ce cas-là, pourquoi, après s'il s'en va, quelqu'un ne s'installe pas à sa place?
Non, parce que vous savez qu'il y a tous les problèmes.
Bah non, mais c'est trop facile.
On trouve des problèmes
aux autres de faire.
On peut pas se garer.
Aujourd'hui, c'est ça.
Jusque maintenant, ça pose pas de problème.
Jusque maintenant, mais aujourd'hui,
Victor Lequette, elle n'est pas là depuis 20 ans.
Ah, bon, il faut trouver quelque chose à dire.
Ouais, voilà, c'est ça.
Attendez, je vais quand même donner
deux... Prochain sujet du Sautrio.
Je vais quand même...
Mais oui, il y a une pénurie de secondes, mais l'offre n'étant pas bonne, à partir du moment où vous avez une mauvaise offre, vous n'attirez personne.
Je pense pas que ce soit le seul problème.
Ah, c'est un des...
Tout d'abord, le premier point, c'est que celui qui est venu me voir n'était pas en recherche d'une solution. Il a dit, de toute façon, moi j'ai pris ma décision, on me donne 50 000 euros, je sais plus où, je pars. C'est donc un calcul financier, quelque part. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur la recherche, effectivement, de médecins pour venir... L'autre jour, nous étions à l'Union des maires de l'Oise, et des communes qui cherchent des médecins avec des étiquettes affichées dans les facs de médecine, il y en a des murs qui sont couverts. Et c'est pas moi qui les lis. Il y en a des murs qui sont couverts. Donc on est dans un contexte de pénurie, de toute façon. Maintenant qu'il faille y réfléchir, voir ce qu'on peut faire, évidemment, et je vais pas dire le contraire, mais il serait... pas raisonnable de penser que dans un contexte de pénurie comme ça, on va attirer je sais pas combien de personnes, elles vont venir. C'est pas raisonnable. On a un problème à régler qui se situe un niveau pour le coup là, largement au-dessus. Largement au-dessus.
Pour être clair quand même, ce que l'on demande, c'est là, de regarder très sérieusement cette situation et
de voir quelles mesures
on peut trouver des solutions et dans quelles mesures on peut agir. On dit en aucun cas qu'on est sûr que demain on en aura 10, c'est pas le problème. Mais on a une problématique qu'on doit regarder à l'échelle communale et c'est une évidence. Hein. Et fermer les yeux, c'est vraiment une grosse erreur.
Personne ne ferme les yeux.
On a contacté tous les médecins, il ne faut pas croire. On a travaillé sur le dossier. Dès qu'on a su qu'ils partaient, on les a rencontrés. On n'est pas resté sans rien faire. Hein. C'est certain.
Non, mais quelle réponse a-t-il été donnée à la suite de ces entrevues?
En fait, aujourd'hui, ils veulent trouver un logement. Quand on leur propose des logements, ben, oui. Ils veulent pas les visiter, donc on peut pas faire grand-chose non plus pour eux. Hein. On peut pas les prendre par la veste et puis les traîner. Hein. Le docteur Mazagarbe, il vient nous avertir qu'il partait. C'est un aspect financier des choses. On va y part. Que voulez-vous qu'on y fasse à ça?
Maintenant, qu'on y réfléchisse dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, mais posons bien toutes les briques sur la table. Oui,
c'est sûr que si demain il y a 10 médecins qui nous disent on vient à Verberie, mais effectivement l'investissement sera intéressant. Bien sûr. Là, il peut y avoir un projet. Mais le fait de dire on va investir dans quelque chose qui va nous coûter 500, 600, 700 000 euros, et puis qu'on se retrouve avec deux médecins dedans, comment on va faire, quoi.
Voilà. Le cabinet du docteur Mazagarbe, il a évidemment proposé aux deux autres médecins de racheter, qui ont refusé de racheter.
Voilà, c'est déjà aussi un élément.
On ne peut pas acheter le cabinet.
Ah oui, mur. Donc là, on va le racheter.
Oui.
C'est des décisions personnelles.
Hein. Oui. 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 Oui.
Ah ouais.
De
toute
façon, c'est pour ça que ça veut dire ce que ça veut dire.
Ils n'avaient pas rénové il y a quelques années.
Donc qu'il faille y réfléchir, oui. Maintenant, penser qu'on va trouver la solution. Et puis, il y a un niveau d'investissement au-delà duquel on ne voudra pas aller. Très clair.
Mais avant de se dire que c'est possible au niveau d'investissement, il faut quand même regarder ce qui est les solutions. Si c'est pas forcément c'est de l'investissement, néanmoins, si c'est celle-ci, c'est de regarder combien.
Typiquement, j'ai évoqué tout à l'heure la résidence intergénérationnelle qui sera bien située. Et effectivement, on a bien regardé, a choisi au bac comment ça se passait. Et ça se passe très bien. Et ça, c'est une solution qui va arriver. Voilà. Je vous propose de clore maintenant le conseil municipal.